Nous sommes mercredi 20 octobre 2021. Vous avez enfilé votre plus beau variasute et c'est le Dojo Bar.
Bah ah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Salut.
Alors Mecton, nous avons un truc à te dire. Ton plafond va coûter probablement beaucoup de chiffonnettes.
Non, il y a moyen. Cette histoire d'assurance, je vous assure, je vais l'écrire, je vais vendre les droits à Netflix, ça fera une bonne comédie.
Ils veulent pas te rembourser, mais c'est normal, c'est une assurance.
C'est le
principe. Non, c'est pire que ça. Enfin,
non, ils sont très cons en plus.
Ils sont très très cons. Alors, au bout de trois semaines, ah oui, c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose.
J'ai une question, Mecton, est-ce que l'assurance se fournit une combinaison de gravité pour que tu puisses se déplacer correctement dans ton nouvel habitat?
Eh ben écoute, je vais leur soumettre la question, au minimum ça les fera chier un quart d'heure.
Ce qui est quand même toujours de gagner.
Ça fait toujours plaisir.
Bref. Donc, le programme de ce soir, nous allons parler du pédigré de Mercury Steam, donc les auteurs et autrices de Metroid Dread, entre autres, mais aussi de Metroid Samus Returns et de 2-3 autres briques dont
2D.
On va parler. Des derniers Metroid 2D, en tout cas. Nous allons parler de Metroid Dread lui-même, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à en dire. Et nous allons commencer tout de suite par notre petit tour de table de l'actualité. Une fois de la coutume, je vais prendre la main en premier pour faire un petit peu d'auto-promo, parce que c'est important. Donc petit 1, il y a un petit vide-vu qui est sorti sur Crossing Blast hier soir. Voilà. Le jeu, il est pas mauvais, je trouve juste qu'il est pas foufou, mais c'est pas mauvais. Deuxièmement, j'ai acheté une Switch OLED il y a une semaine et demie. Voilà. Parce que je suis riche. Ça déjà, c'est important. Donc j'ai fait un compte-rendu le plus complet possible sur le dojo. Je vais vous résumer ça en quelques phrases. Ceux qui veulent le lire, vous pouvez aller le lire. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Switch OLED? Non. Est-ce que l'écran fait plaisir? Putain, oui. Voilà, est-ce que vous avez des questions?
Putain.
Oui.
Non.
Oui. Combien en chiffonnette Apple?
12,5.
Putain, il a les tables de conversion.
Une demi.
voilà, non, je sais pas si vous avez des vraies questions, hein, je veux dire, en dehors de ça. Alors, j'ai tenté de faire une espèce de pseudo-fac, c'était ça le principe, c'était de dire bah, qu'est-ce qui n'a pas été répondu par tout le monde, parce que, effectivement, comme c'est sorti il y a une semaine et demie, il y a plein de journalistes qui avaient déjà fait tout un tas de comptes rendus. Moi, j'ai attendu un peu, ne serait-ce que pour pouvoir essayer plein de jeux avec, notamment pouvoir essayer Breath of the Wild. Ce qui va me permettre de le déclarer jeu de l'année pour la quatrième année consécutive.
Ah, habile.
Voilà, c'est très habile. Non, voilà, d'essayer plein de cochonneries, d'essayer la console dans plein de situations différentes. Quand il faisait... Oui. Quand il y avait... Alors, du soleil, ça a été un poil compliqué, mais j'ai quand même réussi. Quand c'était très lumineux, quand c'était moins lumineux, quand, voilà, sur le lit...
Mais bien, le soleil, c'était bien quand il y en avait.
Non, parce qu'après, il fait chaud. Ça, c'est mal. Donc on aime bien l'obscurité. C'est bien ça.
Est-ce que c'est mieux que la Switch originale aux chiottes?
Alors, oui.
Parce que bon, c'est quand même la question que tout le monde se pose.
C'est quand même la question que tout le monde se pose. Est-ce
qu'elle n'est pas?
Donc il va falloir que je rajoute dans la fac. Est-ce qu'aux chiottes, elle est meilleure que l'originale? La réponse est oui. La réponse est clairement oui.
Car elle brille plus dans le noir, donc on peut mieux voir quand on se torche le cul.
Non, alors pas du tout. Pas du tout, parce que l'écran étant plus grand, non. Alors en fait, ça dépend si ton plafonnier de chiottes est juste au-dessus, parce que l'écran est aussi brillant. Donc, pas forcément bon plan, en fait. Voilà. Bref, donc la Switch OLED, vous avez un petit compte-rendu. C'est pas fou.
Première Switch, oui, mais pas en remplacement, ça vaut pas le coup.
Alors, si t'as, comme moi, une Switch de lancement, et que t'en veux une deuxième, et que t'as envie de jouer essentiellement...
En nomade,
je pense qu'entre une Switch Lite et une Switch OLED, si t'as les moyens, si t'as le budget, vaut mieux prendre une Switch OLED.
Oui, t'as la même chose, et puis la première, comme ça tu la pirates.
C'est un peu ça. Moi j'ai une Switch modèle de lancement, j'en voulais une deuxième depuis longtemps, je m'étais dit peut-être que j'achèterais la première révision, qui avait une batterie plus longue d'occasion, un de ces quatre, quand j'aurais le truc. La Switch OLED a été annoncée. C'était la bonne occasion d'y aller. Sinon, j'aurais probablement
pas
pris...
T'es pas fait niquer comme la 3DS, ça.
Pas encore, Parce que la Switch Pro sera donc annoncée, je vous le dis, dans exactement 3 semaines. Voilà, oh. Je vous prédis, c'est exactement ce qui s'est passé pour la 3DS XL. Voilà.
J'ai une question.
Oui.
Est-ce qu'il faut un adaptateur si tu veux nettoyer l'écran avec la chiffonnette?
Oui, parce qu'elle n'est pas compatible. D'accord. Faut arrêter avec ça, monsieur. Bref. Voilà, donc je... Encore une fois, faut profiter de l'écran OLED, c'est dommage de ne pas le faire. Comme première Switch, moi je dis oui. Comme remplacement d'une Switch qui serait un modèle de lancement un peu fatigué, je dis éventuellement oui si on a les moyens. Comme seconde Switch, pour jouer essentiellement en nomade, je dis oui, très fort. Mais voilà, aujourd'hui, des Switch d'occasion, que ce soit des Switch Lite ou des Switch première révision ou des Switch lancement, ça se trouve. Donc si vous avez besoin d'une deuxième, il n'y a pas besoin de mettre le pognon dedans. Maintenant, voilà, ça n'apporte pas grand-chose de plus que cet écran qui est extrêmement bien. Mais vraiment extrêmement bien. Très lumineux, très agréable, vraiment avec des noirs profonds. Enfin voilà, ça reste une Switch OLED, ça reste un écran OLED, donc de très 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 bonne qualité. Mais c'est clairement pas indispensable. C'était mes pensées autour de ça. Je vous invite à aller regarder l'article si vous voulez deux trois petites informations en plus.
C'est bien, mais pas top.
C'est ça.
J'ai pas regardé le nouveau dock, on le trouve déjà à l'unité ou pas?
Alors je ne sais pas, je ne pense pas.
Si, si, ils ont dit qu'ils le vendraient seul.
Alors après,
peut-être qu'on le trouve pas encore, c'est peut-être juste ça, le problème.
Pas encore. Ouais, ouais. Le bon plan pour acheter un dock seul, c'était de l'acheter directement auprès du SAV de Nintendo. Je redonne l'astuce, elle est toujours valable 4 ans après. T'as envie d'acheter un second dock dans le commerce, il coûte genre 90 balles. Sur le SAV de Nintendo, il coûte 60. Oui. Je pense que le nouveau dock, ça doit être à peu près pareil. Et alors, je vous conseille de vous le faire expédier au boulot parce qu'ils envoient la facture dans une enveloppe à part et moi, le service compta est venu me descendre la facture en disant « Je crois pas qu'on ait commandé ça. » ça, c'est quand même bien. Enfin, ça fait plaisir. Bref, je passe la main à Mecton pour le Animal Crossing Direct.
Ouais.
Tu n'as pas le droit de spoiler l'expansion pack.
Oh, bordel. Ok, bon, ça fera peut-être la transition, si tu veux.
Tout à fait. Pourquoi il n'a pas le droit de spoiler?
Parce que c'est une règle, monsieur. C'est un principe, monsieur.
Alors, donc le jeu va passer, je crois que c'est annoncé pour le 5 novembre, en version 2, nom de Dieu. Ce qui veut dire qu'on aura très certainement une édition physique en mode tout sur la cartouche plus tard, enfin, j'espère. À leur place, je leur ferai. Hein. Comment résumer ça rapidement? Plus de plus. Donc plus d'objets, plus de stockage, plus de personnalisation. Donc le retour du café. Voilà, rappelons qu'ils ont annoncé un direct qui allait annoncer l'arrivée du bar dans Animal Crossing le lendemain d'un dojo bar.
Normal.
Ils nous en veulent personnellement, je vois que ça.
C'est la seule explication.
plein de petites choses en plus, donc des artisans en plus qui n'étaient pas là. En gros, si vous connaissez la version 3DS et que vous avez la version Switch, tout ce qui était possible sur la version 3DS inclut... les voyages d'Amiral, là où ils nous chantaient des chansons à la con pour aller sur une île où il y avait des petits jeux débiles, ça vient.
Des chansons de pirates.
C'est ça. Yeah, c'est ça. Chanson qui était super drôle à faire, si vous avez l'occasion de le faire à plusieurs, ça... Encore une fois, big up à l'équipe de Trad, parce qu'il y avait toujours un double sens dans les phrases, et ça partait vite en blague de cul.
Parce que Nintendo France, bien joué. Ouais.
L'arrivée de la cuisine, le fait qu'on puisse ce coup-ci maintenant décorer notre plafond, les murs indépendants un par un, là où jusque dans la version actuelle, quand tu changes ton papier peint, il change partout. L'application photo qui permet plus ou moins de jouer en mode FPS. Le retour des gyroïdes, ça pour les collectionneurs, c'est rigolo, sachant que ce coup-ci, ils sont synchronisés entre eux. Si tu en mets plusieurs dans la même pièce, il y en a genre un qui va faire la batterie, l'autre la guitare, l'autre le chant, enfin, c'est plein de petits trucs à la con comme ça. Donc ouais, plein de plus, de plus, de plus. Et donc ce direct se terminait sur un... Ce sera la dernière mise à jour gratuite. Maintenant, laissez-nous vous parler du DLC.
Oh, on l'avait pas du tout vu venir.
Pas du tout,
non. Un jeu qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, on n'avait pas du tout vu venir le fait que ça allait finir par être payant.
Surtout d'ailleurs, le DLC qu'ils ont fait là, donc. Je pense qu'on en parle après, mais. C'est à l'époque de la sortie de la version 3DS de Happy Home Designer, je m'étais dit, mais. Ça ressemble quand même plus à un DLC qu'à un jeu complet, non?
On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Donc, oui, le Happy Home Designer, si vous aimiez bien sur 3DS, bah maintenant c'est un DLC.
Alors attends, t'as dit qu'il y avait un mode FPS, du coup, Doom Horizon, c'était vrai.
Non, ça devient possible, ça devient envisageable.
Non, c'est un mode 60 FPS.
Ça devient gérable. Donc oui, donc ce DLC, c'est Happy Home Designer. Donc c'est un truc très Startup Nation en fait, c'est-à-dire que tu payes pour avoir un emploi qui va te demander de redécorer la baraque de personnages du jeu, qui vont te dire voilà, j'ai un souci, ma cabane au fond du jardin elle est pas très bien, faut que tu l'améliores. Tu fais ça avec plein d'options de customisation de partout, donc inclus des cloisons intérieures que tu peux mettre, des espèces de renvois de murs, des piliers, des colonnes.
Et tu peux faire, oui, c'est Animal Crossing Constructeur Portugais Edition.
Ouais, c'est bizarre,
mais... tu peux aller faire des cloisons, des portes, de Photoshop, c'est bon.
Tout un merdier de partage en ligne qui nous rappelle qu'en fait le Miiverse c'était vachement sympa. Ouais. Des nouvelles cartes amiibo, enfin voilà, plein de bordel en plus. Et si quand tu as terminé une mission, tu récoltes une petite monnaie à la con qui te permet de débloquer des objets exclusifs que tu peux ramener sur ton île principale à toi.
Alors monsieur, je ne suis pas d'accord. Dans Startup Nation, on est payé en notoriété.
C'est vrai.
C'est vrai.
Dans la Startup Nation, on est payé à la course.
C'est pas gentil.
Voilà. Et donc tout ça est vendu pour le prix d'une chiffonnette.
C'est le running gag de la soirée.
Je crois que ça va être ça. Ouais.
Voilà.
Ou,
et je te laisse la transition
en Dix. Attention.
Et attention, car à la fin de ce magnifique direct que je n'ai pas regardé, ils ont annoncé que le DLC serait inclus dans l'offre du pack additionnel. Parce que je rappelle que Nintendo propose un DLC d'une offre payante. Je trouve que c'est incroyable comme concept.
J'attends que Microsoft le fasse et qu'il nous propose le Xbox Live Platinum qui est au-dessus du Gold et qui serait juste 20€ de plus pour pouvoir avoir le logo Platinum dans ton gamer tag. Je pense qu'ils sont capables de le faire.
C'est possible. Et du coup, le truc, c'est que on avait entendu parler au dernier direct de ce pack additionnel. Donc, en plus de la Nintendo 64 et de l'autre console dont on taira le nom, il y aura donc ce DLC. Et on peut pas se mentir, je pense que autant les deux consoles, bon, pas ouf, autant quand tu joues beaucoup à Animal Crossing, ça peut être intéressant.
Bah, ça dépend quand tu regardes le prix. Au final, ton DLC d'Animal Crossing, tu le payes.
Donc oui, alors on va parler du
malgré
prix.
Tout.
Pour rappel, en offre basique individuelle, c'est 20€ par an, le Switch Online, pour un service d'une qualité discutable, on va pas se mentir, hein. Vive le lac de Smash Bros.
Tu es bien poli.
Mais qui était pas cher. C'est-à-dire que 20... Je rappelle que chez Microsoft, c'est 60 balles. Chez Sony
aussi.
C'est 60 balles.
Ouais,
là, t'es 3 fois moins cher.
Voilà, alors, dans les deux cas, il y a des jeux offerts tous les mois et souvent des jeux récents sur les consoles.
Non, mais il y a des jeux offerts, le online est un petit peu meilleure qualité, il y a du voice chat, enfin voilà.
À 20
balles, c'est vraiment le service minimum.
C'est ça, c'est histoire de dire on vous fait payer, quoi.
Voilà, ce qu'on t'offre comme jeu, c'est quand même... Alors si t'as tous les trimestres, je crois, il y a un jeu qui est en essai gratuit.
Ah oui, Prison Architect, d'ailleurs, le
ouais,
prochain.
Ouais, il y a voilà. Ça. Alors, tu as accès, effectivement, au NES et au SNES voilà. Online, à Tetris 99, à Pac-Man. Bon, toutes ces petites choses-là.
T'as accès à 2-3 bricoles.
Voilà. Ah, et du coup, il y a eu l'extension qui rajoute les deux consoles et le pass. Pour le même prix. Donc, en fait, on va se retrouver avec 20 plus 20, 40€.
Et... 50, monsieur.
Non, 40. C'est 50 aux US, attention, faut pas regarder les présentations US, c'est 50$, mais c'est 40 en Europe. 40 euros.
Pour une fois, c'est pas fait euro enculé.
C'est pas fait enculé.
Enculé.
Exactement, et ça fait plaisir.
Ah putain, la vie dans les citations du dojo, celle-là aussi. Ah mon dieu. Non, ok, on s'est pas fait euro enculé, en tout cas pas complètement. Mais il y a cependant une douille. Alors si vous avez un abonnement famille, je rappelle que l'abonnement famille c'est...
Moi je suis sûr que l'abonnement à 20 balles, ils vont le supprimer à l'avenir.
C'est possible, oui. 8 slots pour 35€ par an. À ce moment-là, le machin Animal Crossing coûte le double en gros, c'est-à-dire c'est 40 balles. Voilà. Donc c'est quand même un peu la douille quand t'as un abonnement famille.
C'est ça. Alors, personnellement, j'ai un abonnement famille avec des potes. C'est plus intéressant tout un coup. Disons que c'est le prix d'un kebab un peu haut de gamme, quoi.
Tout le monde me squatte mon abonnement famille, donc...
Attends, un équivalent kebab ou un équivalent chiffonnette, je suis perdu, mon dieu.
Alors, c'est un kebab de riche, hein. C'est pas un kebab à 5€. Hein.
Ok.
Bon, disons que c'est quand même plus intéressant, je paye moins de 10 balles, quoi.
Oui. Quand t'as la chance de pouvoir te grouper, c'est vrai qu'il est, c'est plutôt ça. Pas mal, celui-là, en fait.
Je paye ma 10 manuels à Monseigneur, et puis c'est bon.
Voilà. Donc c'est un petit peu la douille.
C'est un peu la douille. Alors on rappelle qu'en plus il y aura pas tous les jeux 64 à la sortie. Ce qui il y aura pas. Enfin voilà, ça va se rajouter au fur et à mesure et de manière un peu aléatoire malheureusement. Je pense si c'est comme pour l'espèce de Nintendo.
Ouais ouais.
Je rappelle aussi qu'en malus il y a des jeux Mega Drive.
Oui, il y a ça aussi. D'ailleurs.
Il l'a dit.
Et ben les chiottes.
Possible.
Avec la chiffonnette.
Exactement.
Petite parenthèse là-dessus, Emily Rogers, qui est une tweetos assez bien renseignée sur ce qui se passe chez Nintendo, avait supposé que une des raisons qui fait que c'est dans un abonnement à part, c'est notamment pour des questions de droit. Donc déjà, les jeux Mega Drive ne sont pas des jeux Nintendo, et apparemment, Sega n'avait pas été très content des ventes de jeux Mega Drive sur console virtuelle, donc c'est pour ça que on n'avait pas sur Wii U, d'après ce qu'elle a dit. Oh. Et donc ils ont peut-être dû exiger une forme de compensation financière pour être dedans. Et bah sur 64, on devrait normalement avoir les jeux Rareware, donc qui sont des licences Microsoft.
Ce qui fait que Nintendo.
Ouais, du coup, il faut des royalties inversées, quoi.
C'est ça. Je pense qu'il y a quand même des. Enfin, faut imaginer que quand tu ressors un jeu, c'est pour ça peut-être que les derniers jeux qui sont sortis sur le NES et le Super NES Online étaient parfois un peu décevants. C'est que je pense que Nintendo doit payer plus ou moins des royalties ou une licence au nombre de gens qui ont chargé l'application. Donc t'imagines que si t'as 10 millions de gugus qui l'ont chargé, même si on te fait payer 1 euro pour un jeu qui a 40 ans, bah ça fait 10 millions d'euros. Donc tout d'un coup, ça fait quand même très très cher. Ça fait très très cher pour un abonnement qui fait que 20 balles par tête de pipe, quoi.
Alors, étant donné qu'il y a des points de 3, je pense que GoldenEye, vous pouvez vous le tailler en pointe et
oui,
le faire dessus.
Oui. Non mais ça oui, alors peut-être Perfect Dark. Parce que c'est dans le domaine du possible.
Oui, il y a juste Microsoft et Nintendo, ça va. Mais GoldenEye, c'est aussi les ayants droit de 007.
Non, c'est même pas la peine. Et puis, il y a les ayants droit. Enfin, le problème, c'est qu'il y a aussi tous les acteurs qui ont donné leur accord pour avoir leur apparence réaliste, hein, je rappelle, dans le jeu N64.
Il y en a, ils sont morts.
Il y en a dont la famille ne refusera probablement de faire le truc sans avoir 40 000 chiffonnettes, donc... Mec, tout en train de me tuer avec cette histoire de chiffonnette. Bref. Donc, je pense que, voilà, il y a des trucs qui vont être très compliqués. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Je m'étais dit, à 10 balles par an de plus, finalement, t'avais l'abonnement plus. Why not? Tu vois, pour le lieu de 20 balles par an, tu payes 30 balles par an, t'as des trucs en plus.
Ouais, mais c'est toujours comme ça. Tiens, tu vois, les Mario Party, on se dit, allez, à 30 balles, pourquoi pas? Et bim, 50.
Après, il y a des trucs qui me choquent moins que d'autres. Je veux dire, le problème dans Mario Party, c'est que même à 50, il va se vendre. Là, honnêtement, même à... Enfin, je sais pas qui va l'acheter. Quand tu regardes sur le forum du dojo, quand tu regardes... qui est quand même... Alors, on a beau dire, c'est quand même le public cible de ce genre de truc-là. C'est-à-dire qu'on te dit, il va y avoir un N64 Switch Online. Évidemment, tu as tous les N-Sex qui traînent sur le forum, qui sont là en mode... Enfin, ils sont en train de lécher la vitre, normalement. On leur a dit, ah, c'est 20 balles par an. Ils ont fait, ouf. En gros, ils ont fait non, c'est sans moi. Tu remarqueras que personne n'a dit qu'il allait le prendre pour la Mega Drive aussi. perso, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Voilà. Après, les gens qui sont des gros fans d'Animal Crossing, je pense qu'ils préféreront peut-être payer 25 balles d'entrée pour avoir le DLC, mm-hmm. et pas payer les 20 balles par an d'abonnement.
C'est ça.
C'est quand même ça aussi.
La douille,
c'est malin, hein, parce qu'ils ont un truc pour attirer les vieux et un truc pour attirer les jeunes dans leur abonnement.
Moi, je pense qu'il est un poil trop cher. En termes de prix, je pense que c'est mal calibré. Encore une fois, ça aurait été 10 balles. Je pense que ça partait tout seul. Même moi, je me serais peut-être laissé tenter. Là, moi, j'ai un abonnement famille, donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute 40 balles dessus. Honnêtement, je pense que je le ferais pas.
Le truc, j'y pense, hein, juste pour être clair, si tu prends le pack DLC Animal Crossing plus extension d'abonnement, le jour où tu arrêtes ton abonnement, tu perds l'accès au DLC.
De quoi ?
Oui, pardon ? Il est lié à ton abonnement. Tu arrêtes ton abo au premium, tu perds l'accès à ton DLC.
D'où le fait que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui préféreront peut-être acheter le DLC plutôt
en flat une bonne fois pour toutes.
Ouais, voilà. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Toujours pareil. Après, peut-être qu'il y aura des promos là-dessus. Ce serait pas forcément très étonnant que Nintendo fasse une opération promo à un moment en disant hey, l'abonnement plus, il est juste à 10 balles par an. Non, pourquoi pas, mais bon. Bref, Zergy, est-ce que tu veux traiter de la mort des jeux de foot, histoire de rigoler, ou est-ce que... Tant pis, on se le garde pour plus tard.
Mes bien chers frères, nous sommes tous réunis pour honorer la mémoire de PES, lâchement assassiné par Fuck You Konami, et ressuscité sous une forme immonde de eFootball. Le jeu tellement en kit qui nous fait penser au merdier des éditions Atlas qu'on avait connu dans les années 90... et dans lequel on peut précommander des lootbox. Même EA n'avait pas osé.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, la bonne nouvelle quand même dans tout ça, donc eFootball est mort, et EA va perdre normalement l'exclusivité...
Il s'est brouillé avec la FIFA.
Voilà, va perdre l'exclusivité de la licence FIFA, ce qui est une excellente nouvelle.
Mais en fait, ils vont pas perdre grand-chose, en fait. Tu n'auras plus la Coupe du Monde et tu n'auras plus le nom FIFA. Parce que le reste, c'est des licences, c'est des trucs à part.
Et vous savez comment ça va finir, hein ? La Coupe du Monde va finir en DLC.
Oui, c'est fort possible. Probable.
Alors,
c'est message, tristement probable.
Petit message à Next Level Game, c'est le moment de se sortir les doigts du cul, les mecs.
Mais grave.
Putain, allez, faut le faire maintenant. Faut le faire. Voilà, on va marquer une première petite pause musicale que j'ai pas été chercher dans la playlist parce que je suis un sale con.
Ah bah bravo. Hein. Ah bah voilà, oui, non, on a trouvé le problème.
Oui, c'est probablement ça. Ah non, c'est pas celui-là. Attendez, en plus, je récupère. Ah,
attends, je vais faire la transition en attendant. Du coup, voilà, on n'a pas pris de musique de Lost de Metroid Dread si t'as pas changé depuis le conducteur.
Non, pas changé, non.
Et parce que, bah, on va pas se mentir, Lost n'est pas extraordinaire. En tout cas, pas marquante. Et du coup, j'avais proposé de prendre des remixes de Harmony of the Hunter. Plus précisément, le dernier album qui est l'album Return. Qui est un hommage par des fans qui avaient déjà fait un Harmony of the Hunter il y a quelques années et qui était sorti pour les 35 ans de la série cette année. Apparemment, c'est aussi un hommage à un de leurs potes qui est décédé. Alors, je ne sais pas quand exactement parce qu'ils ne le précisent pas. Et du coup, la première, c'est une reprise de Metroid Dread. Donc, je pense qu'ils ont réussi à choper une piste sonore genre sur le site officiel ou un truc comme ça pour pouvoir la remixer. Et qui est issu de la première zone du jeu, donc il n'y aura pas vraiment de spoil là-dessus. Voilà.
Alors attends, qu'on soit clair du coup, parce que je pense que j'ai inversé les deux. Ah non, c'est Arthur.
Il allait mettre Tetris en fait.
Ah non, je me suis gouré. Ah, j'ai pas pris le bon morceau, quel gros con. Bon bah tant pis, bah ce sera pas un morceau de.
Donc alors voilà, Eratop. C'est une émission réalisée par des professionnels.
Non mais, tu vois, il fallait qu'il y ait un truc qui merde. Voilà, ça y est, on l'a. Donc en fait, j'ai pas pris le bon morceau. Donc en fait, ce qu'on va écouter, c'est pas du tout ça. On va écouter The Mother World.
Bah, qui est basé sur l'autre jeu fait par Mercury Steam, qui était Samus Returns, et qui a eu un remake en 2017. Et c'est la musique qu'on entend dès la première zone du jeu, donc elle est assez connue celle-là.
Tout à fait. Et donc, bah, ça dure un petit peu plus de 4 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et donc, nous allons parler du pédigré de ces messieurs de chez Mercury Steam, puisque c'est l'équipe espagnole basée à Madrid qui a réalisé Metroid Dread, et on s'est dit, tiens, ce serait quand même drôlement bien d'aller regarder ce qu'ils ont fait avant. Avant Metroid Dread, avant Metroid de manière générale, avant de se retrouver avec tout le poids et la masse de Nintendo sur le dos pour produire des jeux bien. Voilà. Et vous allez voir que le pédigré est un peu, comment dirais-je,
fluctuant.
Bah, disons qu'il y a eu des hauts et puis
et
il y a
des,
eu
bas.
Des bas.
Voilà. Les bas, ils étaient assez spectaculaires.
Les bas étaient relativement bas. Ouais. Après, c'est toujours pareil dans ce genre de cas-là. C'est pas forcément évident de juger ça comme ça parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions. C'est pas toujours dans quelles conditions. Les équipes de développement ont
alors,
du,
pour,
ont du
pour
travail.
Pour un débat, on est au courant, parce qu'il y a un développeur qui a tout balancé.
Alors, on parle de quel bas?
On parle du bas Castlevania.
Ah, on va y revenir.
On verra plus tard. Bah, déjà, il y a le commencement.
Alors, déjà, il y a le commencement. Il y a un jeu qui s'appelle Scrapland, alors qui techniquement s'appelle American McGee's Scrapland. Alors, je rappelle qu'American McGee est un mec qui a fait un de mes jeux vidéo préférés de l'univers, qui est Alice.
Le Alice, ouais, c'est génial.
Qui a participé, qui faisait partie d'id Software, donc qui a participé au design de Wolfenstein, de Doom, de Quake. Donc c'est quand même pas, le mec a un petit CV, quoi. Et étonnamment, depuis qu'il a quitté id Software, bah, le petit CV, à part Alice, dans lequel...
Ouais, je croyais qu'il avait fait que ça, tu vois. Je connaissais
bah
pas
non,
du tout le
Scrapland. Il a fait d'autres trucs, et Scrapland, bah, c'est un jeu PC qui est pas ouf. Bon appétit.
Merci.
C'est donc un jeu PC qui est pas oufzor et qui a vite été oublié et voilà. Donc c'est... premier essai, bon ben raté. On va se le dire. Ensuite ils ont fait sur PlayStation 3 et Xbox 360 un jeu qui s'appelait Clive Barker's Jericho. Alors je sais pas si c'est l'adaptation du bouquin ou de la série télé.
Alors.
J'aurais tendance à dire de la série télé, vu la date.
Pour moi, dans l'ordre, ça faisait bouquin, jeu, série.
Ah.
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 Donc, pour moi, après, ouais. Sachant que je me gaufre, et le jeu a été sorti en même temps que la série, mais les périodes de pré-prod devaient tomber en même temps.
Je sais pas, je sais que la série était enfin, sympathique, mais pas ouf.
Alors oui, sympa jusque ce qu'arrive à cette non-fin, mais...
Alors moi, ce que j'ai surtenu, c'est que... Ah mon Dieu, je ne sais pas s'il y a de l'internet... Ah, essaye avec l'adresse IP. 854.200.368.
Voilà, bon, c'est le début des années 2000.
C'est
comme dans Buffy, tu sais, tu cherches la réponse, c'est dans l'ordinateur.
Oui, tout à fait.
Et tu tapes des lignes de code au hasard.
Complètement, mais ça me paraît normal.
Sans jamais utiliser la souris.
Et c'est comme ça qu'on contrôle la climatisation d'un bâtiment, les enfants.
Ou un missile nucléaire depuis une base en Guyane, comme voilà, GoldenEye.
C'est parfait. Bref, donc Clive Barker's Jericho qui fait partie de cette série de FPS très très, enfin de la série de cette flopée de FPS générique gris, moche qu'on a eu sur Xbox 360 et sur
des
PS3 des années 2000 ouais. Entre on va dire 2000 entre Haze c'est pas gentil,
oh
putain,
mon Dieu.
C'est pas gentil d'aller taper là-dessus
non, il y avait du jaune.
Oui, c'est vrai, il y avait du jaune. Mais ça, il y a eu toute cette série de FPS hyper génériques genre Delta Core qui avait toujours des noms à la con d'ailleurs.
Voilà, vous aimez bien mettre un peu des noms de, qui font un peu...
un peu peur.
US Air Force.
Voilà.
Delta Force.
SOCOM. Non, ah merde, ça c'est
Call of Duty. Non.
Call of Duty. C'est des jeux de merde qui n'existent plus.
Ouais. Parenthèse 2 à la con, hein. Ce genre de jeu, je leur en veux juste parce qu'ils ont fait de l'ombre à Spec Ops. Et Spec Ops, c'est un putain de jeu. Faites-le.
Mais, oui, mais quelque part, sans ces jeux, est-ce que Spec Ops
ressortirait autant du lot?
C'est ça, en fait. Est-ce que les gens seraient rendus compte de ce qui était intéressant dans Spec Ops?
Ouais, peut-être. Peut-être.
Bref, donc c'était pas fou.
Mais enfin... surtout, je crois qu'en plus, c'est des jeux où c'était co-développeur de mémoire. Alors moins de deux.
C'est peut-être que... Scrapland, ça m'étonnerait pas qu'ils soient co-développeurs. Jericho, pour moi, ils étaient développeurs. Tout court. Après, c'est dans le ton de l'époque, ça a pas forcément été mal reçu. Hein. Mais ça reste, malheureusement, bon, un jeu à licence, un FPS grisâtre moche des années 2000...
Enfin, c'est pas des jeux pour lesquels ils ont vraiment réussi à se faire connaître. Hein.
C'est du travail de commande, je pense.
Ça ressemble à ça.
Comme ça.
Alors Jericho, ils ont bien co-développé hein, avec Alchemic Productions. Je suis regardé les notes que j'ai envoyées.
Castlevania, ensuite, donc Castlevania Lords of Shadow.
Pour mais du coup, c'est comme ça qu'ils ont été connus.
C'est-à-dire l'album de la maturité.
Exactement. Ah, ça serait plutôt Metroid Dread, pour le coup.
Ouais, en l'occurrence, ouais, je pense qu'on avait plus haut là-dessus.
Ah, j'aurais dit le comeback.
C'est un projet assez intéressant, Lords of Shadow, parce qu'à la base, ça ne devait pas être un Castlevania. Je n'ai plus tous les détails de comment on en arrivait là. Comment ils étaient en contact avec Konami. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu a été présenté à l'E3 comme étant le prochain gros projet sur lequel Kojima allait bosser.
Ah oui, il est partout.
Alors, je pense très sincèrement qu'ils ont juste mis son nom parce que Castlevania ça vendait plus à l'époque, hein, on est en 2009-2010, et qu'il fallait un gros nom pour, à mon avis, permettre au jeu de briller un petit peu. Après, faut quand même supposer que ça a été supervisé par Kojima Productions. Hein. Le Wikipédia précise effectivement que ça a été une collaboration avec eux. Ce qui expliquera aussi peut-être aussi pourquoi. Ce Castlevania-là est d'une qualité un petit peu supérieure à ceux qui vont suivre, sans être vraiment méchant.
Alors.
Et du coup.
Donc, Lords of Shadow.
C'est un peu un reboot de Castlevania.
Voilà, ça ressemble à une espèce. Si tu mélanges God of War, tu fais God of War, mais avec des vampires.
Alors, c'est un mélange un peu de. C'est un God of War globalement, hein, parce que le héros se bat avec sa chaîne comme Kratos se bat avec. Enfin, il se bat avec son fouet comme Kratos se bat avec sa chaîne. C'est du beat'em all, avec coup fort, coup faible, les combos et compagnie, ça reste assez simple, hein, c'est pas non plus la technicité d'un Bayonetta. Mais on est un petit peu voilà, sur cette époque de God of War. Je crois que ça sortait peu de temps après God of War 3, ou à peu près à la même
période. Ça doit être à peu près à la même période, de mémoire.
Et c'est un jeu qui a été pas mal comparé à God of War d'ailleurs là-dessus, parce qu'on retrouve des trucs un peu similaires, notamment des combats contre des monstres un peu géants, alors qu'ils font aussi penser à Shadow of the Colossus. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on lui reprochait généralement, c'est que c'est assez intéressant esthétiquement, le jeu fonctionnait bien, c'était le premier Castlevania 3D qui avait vraiment fait l'unanimité au niveau critique, mais ça faisait un petit peu pot pourri de ce qui existait avant, et ça avait pas tant que ça identité Castlevania.
À part la fin où il y avait un twist vraiment sympa.
C'est ça, mais c'est vrai qu'après quand tu réfléchis, quand tu dis qu'effectivement le projet à la base n'est pas à Castlevania, mais... on est devenu un avec le soutien de Konami. Tu comprends aussi pourquoi il y a peut-être des divergences, alors notamment au niveau musical, où on est sur de la musique type cinéma assez générique et pas du tout sur les espèces de compos rock-prog, new metal des Castlevania habituels, où les grosses guitares côtoient les manoirs gothiques. Quoi.
Oui, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ça fait quand même partie de l'attrait de Castlevania, justement cette identité musicale très forte.
Voilà. Là, on est clairement sur un jeu beaucoup plus typé occidental, voire européen. Ce qui est très bien aussi, hein, honnêtement, la DA est assez chouette, je trouve. Mais du coup, on perd un petit peu le charme un peu kitsch et gothique des Castlevania, je veux.
Surtout vu par les Japonais, en fait.
C'est ça.
C'est l'Europe romantique post-victorienne vue par les Japonais. C'est ça qu'il faut. C'est quand même assez extraordinaire.
C'est Lady Oscar avec un fouet.
C'est exactement ça. on est. Putain, là, il va y avoir de la citation, je crois.
Lady Oscar avec un fouet.
Lady Oscar avec un fouet. Donc après, il y a eu Lords of Shadow 2.
Alors non, il y a eu d'abord Lords of Shadow Mirrors of Fate.
Alors non, il y a eu Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate.
Donc ça, c'était sur 3DS, puis sur console HD.
Et c'était de la merde.
C'était pas ouf, d'accord.
C'était quand même... Ouais, non, clairement, c'était pas ouf.
Ça reste intéressant par rapport à ce qu'on va discuter après, parce que c'est leur première tentative de Metroidvania.
Ouais, mais vraiment générique, alors.
Et encore vite fait.
À la défense du truc, le jeu tournait très bien sur 3DS, qui est déjà pas si mal que ça, c'est-à-dire que leur moteur était relativement au point, ce qui est déjà pas mal. Que le jeu tourne aussi vite que la 3DS peut le faire tourner, je pense pas que ce soit du 60 FPS, ça doit plutôt être du 30, puisqu'il faut faire tourner pour les deux yeux, enfin bref. Mais le jeu marchait plutôt bien, c'est-à-dire qu'il était pas moche, il était pas forcément idiot, le problème c'est que les combats étaient très ennuyeux, parce qu'en final, ils ont perdu ce côté un peu... finalement, ils avaient pas le côté sadique des Castlevania 2D d'origine, avec ce placement d'ennemis qui était toujours extrêmement... sadique, il n'y a pas d'autre mot.
Fait pour te faire chier.
J'avais connard en tête.
C'est ça, voilà, c'est vraiment le placement de fils de pute. Et en même temps, ils n'avaient pas non plus le côté plateforme RPG que tu as sur Symphony of the Night et tous les Castlevania GBA, qui fait que en fait battre les ennemis c'est augmenter ton matériel, c'est aller avoir des âmes et des machins. Ils avaient une espèce d'entre-deux un peu foireux en fait.
C'était un peu bâtard, et puis en plus alors c'est un jeu où il y avait trois personnages différents à jouer de mémoire.
Oui.
Ce qui fait qu'en fait au final quand t'avais fini avec un personnage tu passais au suivant et on perdait un petit peu le côté se perdre dans le château. Parce qu'au final bah, avec un personnage t'avais accès qu'à des zones précises du château qui étaient celles de son scénario.
Exactement.
C'est pas un jeu qui est très marquant, on va pas se mentir.
C'est pas ouf. La version qui est ressortie sur PS3 et Xbox 360 en mode HD et en mode... Alors qui s'appelle donc officiellement Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD. Vous noterez quand même. Plus joli que sur 3DS forcément, mais toujours... Enfin, ils ont rien corrigé, c'est toujours le même jeu. Et donc ensuite Lords of Shadow 2. Et moi, alors celui-là, par contre, autant Lords of Shadow 1, je vois à peu près ce que c'est. Lords of Shadow 2, moi, ça m'a...
Pas fait non plus.
C'est un peu une catastrophe. Je crois qu'il y a eu des très très mauvaises notes à sa sortie. J'y ai pas joué non plus. J'attendais pas mal, parce que j'avais bien aimé le premier. Mais c'était assez catastrophique, le résultat final. Et ça faisait partie des trucs que j'avais un peu recherché, parce que c'était ressorti récemment avec les histoires de gestion des crédits sur Metroid Dread. Apparemment, il y avait déjà eu des retours sur les soucis internes de Mercury Steam en termes de gestion des équipes notamment et de gestion des projets. Et un des employés est un petit peu sorti du placard pour dire que globalement, bah, en interne, il savait que c'était de la merde. Je crois que je suis quasiment en train de le citer. Hein.
Ah oui, on en est là.
Alors si j'arrive à retrouver le passage exact dans mon article en anglais...
En espagnol ?
N'est-ce pas, il est en anglais.
Es la mierda.
Es de la mierda. Bah pour le coup, il n'y avait pas de soutien a priori de Kojima Productions sur celui-là, donc il le développait uniquement en interne.
Mais de Knuckles à la place.
De Knuckles. Putain, je ne ressens plus la citation, je le ferai peut-être pendant la pause pour la sortir après.
On va la récupérer après.
Je vais la faire relativement rapide. Sinon je l'aurais mis dans le chat. En gros, un des boss de Mercury Steam s'appelle Henrik Alvarez. Et ce qu'on pourrait appeler globalement un tyran. Et le genre de mec qui décidait de tout et n'écoutait absolument pas ce que les autres lui disaient, dont la parole, dont les décisions étaient paroles d'évangile. D'après cet employé anonyme, ça fait partie des raisons pour lesquelles ce second épisode est très mauvais, et notamment c'est pourquoi ils ont tant galéré à le finir. Donc il y a pas mal de petits soucis internes qu'on a retrouvé un petit peu récemment. J'ai plus tout le détail, mais c'est apparemment la direction était un petit peu dans son monde et les employés subissaient légèrement ce genre de truc. Quoi.
Ils étaient français, du coup.
Ils étaient du côté de Poitiers.
Bref. Ah, là, tu veux dire à Montreuil ? Dans un rêve quantique.
Eux aussi. Metroid Samus Returns, donc c'est le jeu suivant. Celui-là, on y a déjà consacré un épisode complet du Dojo Bar, donc on va vous y renvoyer, dans lequel il y a d'ailleurs une rétrospective Metroid où je crois qu'on parle effectivement de l'histoire de Metroid, Metroid donc Metroid, Metroid 2, Metroid 3, Metroid 4. Donc je crois qu'on fait l'ensemble. Pas les Prime. Un jour, il faudra peut-être qu'on fasse un truc sur les Prime, mais je sais pas si on en a déjà fait.
Pour Metroid Prime 4.
LOL.
Voilà. Trilogie, j'espère toujours.
Donc Metroid Samus Returns qui tourne sur le même moteur que Mirrors of Fate, qui est un très bon moteur de jeu parce qu'il marche vraiment bien sur 3DS. Mmh. Voilà. Et ensuite, donc on enchaîne assez vite puisque finalement, encore une fois, on a déjà consacré une émission complète. Space Lord, qui est un free-to-play TPS multijoueur qui a l'air d'être à peu près maintenu, qui je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça sort un peu de nulle part. Celui-là, je connaissais pas. Alors peut-être que c'est un truc qui est super populaire dans certains pays du monde, mais quand je vois le nombre de TPS multijoueurs free-to-play qui existent, que ce soit Warframe, Fortnite, machin, je me dis que tu dois quand même avoir du mal à vivre de ça, quoi.
Bah, moi, j'ai découvert en allant sur leur site pour voir ce qu'ils avaient en termes de jeu. Mais d'ailleurs, franchement, le site de Mercury Steam, si tu veux savoir ce qu'ils ont fait, bon courage, hein, parce que t'as Samus Returns, Space Lord sur la page d'accueil, et Dread, faut regarder un petit peu plus bas. T'as pas les Castlevania, t'as rien d'autre. Hein.
Ce qui est con, mais de toute façon, après, les bases de données de fans sur Internet sont extrêmement bien maintenues, donc on sait ce qu'ils ont fait. On sait où t'as chié.
C'est exactement ça. Mais du coup, c'est un jeu qui est ressorti en plus fin 2020 sur les consoles next-gen, donc il est encore effectivement maintenu, et ça veut dire qu'il y avait un budget pour le sortir sur next-gen, mine de rien.
Oui.
Donc 3 ans après la sortie du jeu, c'est pas dégueu, donc ça doit marcher. Je serais pas surpris que ce soit un titre qui marche bien dans les pays hispaniques.
Oui, ce serait pas choquant, ou genre au Brésil, et effectivement dans les pays hispanophones, en Amérique du Sud, ou en Amérique centrale par exemple, ça me choquerait pas.
Ouais, ça, j'avoue que c'est un peu une curiosité, parce que je n'ai vraiment jamais entendu parler avant, il y a 3 jours. Hein.
C'est ça. Autant, tu vois, Warframe, c'est le truc où je suis pas joueur de Warframe, mais j'en avais entendu parler avant. Celui-là, il est vraiment inconnu au bataillon, quoi.
Alors en plus, il a été renommé. Je ne sais plus quand. J'avais vu ça en faisant une petite recherche. À la base, ça s'appelait Raiders of the Broken Planet Alien Myth.
Ah oui.
Milf.
Alien Milf.
Myth, un mythe, quoi. Oui, mythe. Une grosse mythe.
On est bien.
Et c'est un jeu qui est auto-édité.
Ah, quand même. Et du coup, c'est quand même... Enfin, je trouve ça bien. Mais ça veut dire que ça a effectivement rapporté suffisamment d'argent pour que les mecs arrivent à le sortir sur PS4 et Xbox One. Et peut-être PS5, même non PS4. A priori, c'est pas... Je crois pas que ce soit sorti sur PS5. Mais oui, effectivement, ça veut dire que ça a quand même dû marcher d'une manière ou d'une autre, quoi, pour que t'arrives à le ressortir avec une licence Sony toi-même.
Ouais, c'est ça. Enfin, alors peut-être qu'il a été renommé justement après qu'il l'ait récupéré, mais...
Bref.
Ça reste un truc qu'ils ont maintenu. Et je pense qu'en vrai, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles, après le beat de Lord of Shadow 2, ils sont encore debout. Hein. C'est qu'ils ont ce jeu qui les permet de tenir.
Bah c'est peut-être le fonds de commerce, effectivement.
C'est ça.
Mais du coup, on sait que ce qui a impressionné Nintendo chez Mercury Steam, on sait que c'est Metroid Samus Returns. Et on va enchaîner avec un autre jeu qui nous a impressionné, nous, qui est Metroid Dread. Mais d'abord,
Le jeu de la peur.
Le jeu de la peur. Ouais. On va faire une petite pause musicale où on va pas du tout écouter ce qui est écrit dans le conducteur. Donc, je vais me tourner vers la playlist. On va écouter The Pursuit.
Qui est de aussi... F-Zero.
Non, pas du tout.
Ah.
Non, on parle des séries qui existent encore, s'il vous plaît, monsieur.
Donc, c'est toujours par Shine Sparker sur l'album Harmony of Hunter Return.
Yes.
Et c'est une musique qui est encore issue, a priori, de Samus Returns, justement.
Alors, attends, t'as pris laquelle, Poursuite ?
The Poursuite.
Ouais. Non, c'est Fusion.
Ah, pardon.
C'est un remix de la première zone du jeu SRX, de mémoire. Mm-hmm. Ce qu'on fait à Fusion, il y a 6 zones en plus de la zone principale.
D'accord.
Et donc c'est la première partie. De mémoire, c'était Metroid Fusion.
Je pense que c'est ça. Bref, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Donc nous allons parler de Metroid Dread. On va essayer de couper ça en deux parties. La première va être, à mon avis, relativement courte. C'est la partie, on va dire, pas de divulgachi. Et on va faire une partie divulgachi où alors là, on va se lâcher parce que je crois qu'on est... Voilà, ça y est.
Subtil. Non,
il m'a cassé tout. Toujours encore... poète.
Quel poète.
Donc voilà, on va commencer par la partie no spoil. Avec... le design, on va dire, général du jeu, le nouveau look,
enfin, c'est pas ouf.
Comment tout ça tourne. Alors, ça dépend des zones. Je sais pas ce qui vous est ressorti. Qu'il y a des zones qui marchent très bien.
Alors, je trouve que les zones sont même assez marquées. J'avais un peu peur dans le test de GameCube où il disait qu'il y avait pas trop de différence, et ça va.
Si, on fait bien la différence. Quand on en parlait en off, vu que j'ai commencé le jeu à la bourre, je vous disais... je suis dans la jungle, je suis dans tel endroit, machin, enfin, je les arrive assez bien à repérer. Quoi.
Est-ce que tu es capable de me citer plus de 2 noms de zones ?
Alors, les noms, voilà. Pas encore.
Non, les noms, ils sont nuls.
Les noms, pas encore.
Quand tu regardes, on faisait Metroid Prime pendant la pause musicale, là, Magmor, Fendrana, les ruines Chozo, tu les as retenus. Tu les as retenus parce que les noms sont...
Ouais, là, les noms, ils m'ont pas marqué. Hein. J'ai
Artaria, la première zone, et après, ouais. Je sais pas.
En fait, les zones, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Oh, joli.
Oh putain, c'est vraiment de la merde.
C'est comme ça que moi je m'en souviens, hein. La zone A c'est la zone de départ. Ah si, il y en a une dont je me souviens parce que je peux faire une bonne blague avec, c'est Deron.
Ah oui.
Parce que je vais tout mettre dans ton Deron.
Voilà, c'est parfait.
Voilà, lui je m'en souviens, mais c'est la zone centrale en plus. Donc.
C'est la zone où tu passes quand même beaucoup. Malgré tout. Mais je trouve pas que ce soit si peu marqué que ça, effectivement. C'est-à-dire que la zone de flotte est un peu décevante. C'est le truc qui est à gauche, je me souviens plus de son nom. Il y a la micro-zone très bizarre, là, qui est juste en dessous de...
Ouais.
Ah, la base de Chozo.
Voilà, ouais, qui est un peu curieuse.
Celle-là est assez marquée, pour le coup, parce que ouais. On voit des statues, on voit qu'il y a un côté, genre, c'est habité, normalement. Ah, c'est trop vite.
Alors, par contre, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je sais que les Chozo, de manière générale, ont un design qui ressemble beaucoup au... Ça ressemble beaucoup à l'Égypte antique, en fait. Enfin, on va se le dire, hein, ils ont toujours des... Ils sont représentés de côté.
Oui, voilà, ah, mais... là, c'est... c'était pas subtil.
C'est... Tout ça, c'est pas très subtil. Mais je trouve qu'il y a, une... Il y a un côté Stargate...
On est d'accord.
...sur tous les designs Chozo. Et c'est pas seulement parce qu'il y a effectivement un rapport avec l'Égypte antique. Hein, je veux dire, les masques de Chozo, ça ressemble exactement, effectivement, aux masques d'Anubis égyptiens, mais façon Stargate. C'est-à-dire que le truc brillant, le machin qui remonte...
L'armure, c'est MacGyver.
J'espère bien que c'est MacGyver. Ça me ferait très plaisir. Bah, mais tu vois, les anneaux de sauvegarde.
Ouais, ouais.
C'est assez marqué. Ouais.
C'est quand même hyper marqué, quoi. T'as quelques idées comme ça et quelques designs comme ça. Les statues gigantesques qui portent les salles de sauvegarde. C'est des trucs que tu retrouvais typiquement dans la série Stargate SG-1, avec pourtant un budget assez ridicule. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est un fait exprès. Je sais qu'il y a toujours eu ce côté... Pour donner ce côté ancienne civilisation aux Chozo, il y a toujours eu ce côté
égyptantique. On fait relire un petit peu pour que ça brille.
C'est ça, on met des trucs très brillants. J'ai pas l'impression que c'était aussi marqué de ça dans un Metroid Prime, par exemple, où tu avais plus l'impression qu'effectivement c'était la civilisation disparue, mais pas forcément avec une relation aussi marquée avec l'Égypte antique.
Ah, c'est vrai que quand tu regardes...
Dans Prime, non, pas trop.
Les runes Chozo, elles étaient assez... Elles étaient déjà assez vieilles hein, quand tu visites en vrai.
Oui, voilà, après il y a ça aussi. Hein. Tu visites un truc qui, théoriquement, a de l'âge, alors que là c'est un peu moins le cas.
Mais c'est vrai que j'ai jamais fait le lien avec Stargate. Mais maintenant que j'y repense, dans Samus Returns, les points où tu dois mettre l'ADN de Metroid pour passer à la zone suivante ont un petit côté porte des étoiles.
Oui, mais t'as ça aussi. Hein. Mais je trouve ça. Ça m'a vraiment frappé de voir qu'en termes de design et d'esthétique, tous les Chozo reprenaient énormément ça. Après, le reste des zones, on va être honnête, en termes de DA, je trouve que les noms sont à chier, mais sinon, oui, t'as quand même une bonne différenciation entre les zones. Tu sais quand t'es dans la zone de glace, tu sais quand t'es dans la zone de feu, tu sais quand t'es... Enfin, voilà.
En fait, il y a un problème, je trouve, bon, outre le fait que... je pense qu'effectivement, le fait que peut-être que ce soit en 3D fait que c'est plus difficile de rendre les choses marquantes. Bon, en tout cas, pour des choix artistiques. Mais non, en fait, ça, c'est faux.
Non, parce qu'il y a des palettes de couleurs et des palettes d'éclairage en fait, qui sont assez marquées.
Le souci, c'est que chaque zone a une zone émise, et là, elles sont vraiment toutes identiques en termes d'esthétique.
Oui. Ouais, moi, j'en ai visité deux, c'est gris.
Bah, c'est l'hôpital.
C'est ça.
Tout le temps, l'hôpital, en fait.
C'est gris, c'est froid, c'est très... Ça fait beaucoup penser à la cité dans Metroid Prime 2, la cité avec les robots. C'est une esthétique très, très froide, comme ça.
Et encore, la musique avec le robot, il y a des trucs assez fun.
Oui, il y avait des trucs très fun, alors que là, c'est... Bon, bref. Mais là, on en parlera un petit peu après.
Le machin est tellement vénère qu'il a même bouffé la peinture.
Sauf pour lui. Il est toi plus blanc.
Sauf pour lui, parce qu'il est violet, vert, jaune. Ils sont magnifiques, les émis. Je sais pas pourquoi ils ont des couleurs différentes, mais ils sont magnifiques. Bref, je voulais qu'on aborde aussi la...
Alors, par contre, en termes de... Parce qu'on parle un peu de l'esthétique, on peut parler un peu des animations aussi.
Oui.
Et justement, tu parlais des émis, et je pense qu'on en reparlera quand on parlera un petit peu de comment ça se passe en termes de gameplay. Mais j'aime beaucoup ce côté très dérangeant qu'ils ont à ce... Bah, comme c'est des robots, en fait, ils n'ont pas de notion de colonne vertébrale ou qui peuvent casser ou ce genre de choses, donc ils vont vraiment se mettre dans tous les sens... pour se déplacer.
C'est très malaisant, en fait. Quand
et c'est très malaisant, et je les trouve très réussis là-dessus. C'est que tu les vois, les premiers, tu les vois, t'es... Ok, j'ai pas envie de m'en approcher, quoi.
Mais c'est clair qu'ils ont pas de... Tu sais, ça ressemble à un androïde, en fait. C'est-à-dire un robot qui imite un humain. Sauf que c'est comme si toutes ses jointures étaient bidirectionnelles. C'est-à-dire que lui, il peut plier son coude dans l'autre sens, y a pas de problème. Et c'est exactement ce qu'ils font en plus. Donc,
Et pour le coup, pour moi, c'est. Enfin, j'avais un peu lu des gens qui remontaient là-dessus, mais je suis assez d'accord. C'est vraiment la meilleure représentation. Enfin, l'ennemi le plus proche de l'alien d'Alien qu'on a eu dans un Metroid. Parce qu'il se déplace un peu partout comme il veut. Il utilise beaucoup les coursives. Et il te tue avec un truc qui sort de sa tête.
Exactement. J'avais fait le rapprochement avec Alien, mais effectivement. Enfin, là, Metroid est très inspiré d'Alien. Il y a toujours eu. Les parallèles entre Metroid et Alien existent depuis le tout premier Metroid.
C'est jamais vraiment totalement assumé, mais. Non, bon, mais c'est pas discret, quoi.
T'as l'inspiration, c'est obligé, voilà.
Il y a un boss qui s'appelle Ridley.
Voilà, l'héroïne est une femme, il y a un boss qui s'appelle Ridley, toutes les planètes ont toujours ces noms de code un peu à la con, alors sauf là, ça s'appelle ZDR.
Bon, c'est un autre code à la con. Hein.
Oui, voilà, mais je veux dire, les... Enfin bon, t'as toujours eu ces parallèles qui existent entre Metroid et Alien, et là, effectivement, j'avais jamais fait le rapprochement, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est. C'est troublant, on va dire ça comme ça. Même si ça reste un truc très mécanique, c'est-à-dire que c'est pas du tout, il est pas du tout organique, le EMI.
Ouais, c'est ça. Et pour finir un peu sur les animations, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le. Bah, bon, du coup, c'est les animations de Samus. Qui est vraiment. Qui a vraiment l'air de tromper sa forme, mais je pense que le moment où tu sens que les devs se sont fait plaisir, c'est les animations. Contre les boss, les finishing moves notamment.
Oui.
Où vraiment, tu vois que Samus, bah, c'est une athlète, elle a quand même une combinaison qui la rend un petit peu, qui lui donne une condition physique de malade. Et c'est des moments assez iconiques où elle va gagner de manière assez flamboyante, quoi.
Et ça, c'est chouette. Sans que ce soit du QTE à la con, mais on en reparlera un tout petit peu après.
Et je trouve que c'est pas trop excessif non plus. Hein. Bon, il y en a quand même certains où elle se la pète un peu, mais du coup, ça fait encore plus plaisir quand tu bats un boss qui est un peu dur, parce que le jeu est pas simple non plus. D'avoir cette petite récompense de cinématique où tu le bolosses, quoi.
C'est un peu ça. Mais même, je sais pas si t'as vu quand Samus rentre dans un ascenseur, oui, où il va prendre un point de sauvegarde. Elle a toujours ce côté très assuré et très... tu sais, avec des mouvements, tu la vois bouger, ça fait plaisir de la voir bouger. Elle bouge en 60 fps, elle est vraiment super bien capturée. Je sais pas si c'est de la motion capture ou si c'est animé à la main, mais en tout cas...
Je pense probablement de la motion capture.
Probablement, mais l'acteur ou l'actrice qui fait ça a vraiment un pas super assuré systématiquement, des poses... très marqué, enfin c'est vraiment c'est de ce point de vue là je trouve que c'est très réussi, hein. Ça fait aussi partie de l'esthétique générale du jeu, c'est très réussi.
Bon, moi, je crois que mon préféré c'est contre un certain boss où il est en train de lui gueuler dessus et là elle est devant lui, elle a regardé, elle a chargé son tir pour lui foutre dans la gueule juste après, j'étais mort de rire.
C'était pas mal.
Moi au niveau de l'esthétique j'ai trouvé ça, je sais pas, un petit peu gris,
mais ça dégrise après.
Oui, ah, oui, oui.
D'accord. Faut dire aussi que le dernier Metroid 2D auquel j'ai joué, c'était Fusion, donc forcément c'était un peu plus coloré.
C'est un peu plus coloré. En fait, quand t'es dans la toute première zone du jeu, je trouve que la première zone du jeu est pas ouf là-dessus parce qu'elle est vraiment pas représentative du reste. Quand tu commences à visiter Artaria, qui est la seconde zone, la zone où il fait chaud.
J'y suis là.
Voilà. C'est déjà plus marqué et en fait, tu vas voir que les zones d'après sont un peu plus marquées. Maintenant, je pense qu'effectivement, le fait que ce soit en 3D, ça aide peut-être pas pour bien marquer les différences entre les zones. Dans un Hollow Knight, par exemple, c'était quand même assez simple. J'ai l'impression de marquer les différences entre les zones. Il suffisait juste de donner un ton général au décor en 2D. Ça me paraît un peu plus évident. Bref. En termes de contrôle, de manière générale, on va retrouver quelque chose de très 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 proche de ce qu'on avait dans Samus Returns. Donc on retrouve le fameux pari. Le fameux...
La
parade, le contre. Qui est aussi utilisé plutôt intelligemment d'ailleurs contre les boss.
Oui.
Qui peut être utilisé contre les EMI, mais t'as une chance sur 10 de le faire passer. Et donc c'est vraiment le mouvement de dernière chance.
Alors, ça, c'est le truc génial, j'en parle vite fait. En fait, tu as deux chances.
Quoi ?
Tu as deux chances. T'as deux chances. Et j'ai vu un article de je sais plus qui disait en fait, c'est super malin parce que quand tu te fais gauler. Dans un jeu, on dirait, bon, bah voilà, ta petite cinématique de 3 secondes, tu l'as dans le cul. Là, le fait que tu aies deux chances, ça te force à garder la manette, à te dire, putain, ce coup-ci, je vais y arriver.
C'est pas Atonium qui avait dit ça?
Ouais, si, t'as raison, c'est lui. Et il m'est arrivé d'y arriver sur la deuxième chance, et bah c'est vachement jouissif.
Alors, ce qui est jouissif surtout, c'est quand tu échappes à un ennemi une fois, puis qu'il te rechoppe 2 mètres plus loin, que tu lui réchappes une deuxième fois. Et que tu te dis, putain, d'habitude j'y arrive une fois sur 10, c'est à peu près ça, on est d'accord. Hein,
Ça y est, j'ai compris.
Non, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je m'en fous, j'y retourne, tu vois. Et là, tu te fais niquer.
Ouais, parce que les patterns, ils sont de manière un peu aléatoire.
Ouais, le timing est pas toujours le même, c'est quand même un peu de l'anticipation, un peu du réflexe, donc...
C'est de la roulette, hein.
C'est beaucoup de roulette pour après, généralement, quand tu te fais choper, t'es mort, hein. Sauf oui. Si vraiment t'es au taquet, moi ça n'a jamais été le cas. Alors j'ai quand même réussi une fois à éviter de me faire tuer pendant la partie où faut tuer les ennemis, donc ce qui fait qu'après je peux lui mettre le coup de grâce, j'étais assez content.
Ouais. Par contre, en termes de contrôle, alors je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais j'ai senti que c'était un poil brouillon.
Ouais.
Au sens où, alors tu as quand même le bouton L qui te permet de viser libre sans exactement
déplacer.
Comme sur Samus Return sans se déplacer. Mm-hmm. Tu as le bouton R qui te permet de lancer les missiles. Tu as le bouton Y qui te permet de lancer le grappin. Ceci n'est pas un spoil. Vous savez qu'il allait y avoir le grappin.
C'est ZR.
Oui ou c'est ZR.
ZR ouais. R c'est les missiles.
R c'est les missiles.
Et ZL coup... c'est pour faire la glissade et la boule morphing quand tu l'as.
Voilà. Et du coup, des fois, tu te retrouves à faire L, Z, L, R, Y, un peu tout en même temps, alors que le grappin, il aurait pu être sur le stick droit, ça aurait pas coûté grand-chose, par exemple.
C'est vrai.
Bah, déjà, on peut pas remapper les touches, ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et en vrai, ce que je trouve vraiment, c'est que les deux coups les plus intéressants sur les gâchettes, qui sont pour moi les missiles et la visée, parce que c'est les trucs que tu dois vraiment maintenir, et que souvent, tu dois le maintenir en plein combat. Ils sont sur les deux petits boutons merdiques et LR sur les Joy-Con là.
Ah
oh, putain, c'est.
Au lieu d'être sur les gâchettes. Bruit, hein.
Ouais. Ouais. Et moi je les aurais mis sur ZL et ZR. Parce qu'en vrai, faire la glissade sur L ça me dérange pas quoi. Je le fais une fois de temps en temps. Et j'aurais juste fait pour inverser ça. Et j'aurais été vachement plus content sur les contrôles.
Alors, à titre personnel, mais c'est peut-être un vieux réflexe de vieux briscard, moi pour passer en boule morphing, j'ai jamais utilisé ZL. La glissade, ZL, j'utilisais pour la glissade.
Oui, pareil.
Parce que ça t'est un peu obligé.
Tu utilises bas, du coup.
J'utilise bas deux fois.
Bah pareil, mais pour certains, obtenir certains objets bien cachés, c'était quand même plus pratique le bouton.
On parlera un petit peu après.
Et alors, le dernier truc que j'ai pas trop aimé dans les commandes, c'est le speed booster, il faut cliquer sur le stick.
Oui, ça je suis d'accord, ça c'est chiant.
C'est un peu chiant.
Et quitte à faire ça, quitte à le faire sur un bouton, je préférais la méthode Super Metroid où t'appuies sur le bouton pour courir.
Oui, ou alors tu le mettais sur... Il me semble qu'il n'y a rien sur le bouton R.
Si.
Il y a quoi?
Ah ouais, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Attends, j'ai un doute.
Bah, Y pour tirer, X pour la parade, B pour sauter.
B pour sauter, A.
Pour moi, t'as rien sur le bouton A.
Bon, y a rien sur A.
Attends, mais je crois que j'ai même pas essayé d'appuyer dessus.
Je crois qu'on est en train de découvrir qu'il y avait un bouton qui servait à rien depuis le début.
Si, il sert à valider dans le menu.
Voilà, ça aurait pu être ça, ça aurait été plus simple que de cliquer sur le stick. Qui
est... Ah si, c'est le dash.
Ah oui, c'est vrai,
Oui,
qui est très très pratique. Lui.
Qui est très pratique, mais dont on parlera un petit peu après, parce que là c'est un tout petit peu spoil. Et c'est vrai qu'il y a, c'est le dash, pardon, excusez-moi, c'est le dash, j'ai rien dit. Mais tu vois, pareil, le dash, je l'aurais peut-être plutôt mis sur un ZL, moi, tu vois. Ça aurait été plus...
Ouais, ça
parce
va,
que ça permettait de tirer et de dasher en même temps et enfin, bref.
Ouais, mais tu pouvais maintenir les... Ouais, bref. Ouais,
vous savez que sinon, vous pouvez remapper les boutons dans le menu de la Switch.
C'est vrai.
Ouais, c'est pas le plus pratique.
Ce n'est pas une excuse, mais c'est vrai. On peut le faire pour Dark Souls pour rendre le jeu jouable.
Oui.
Quel bâtard. Non, mais de manière générale, hein, avoir une action en cliquant sur un stick, c'est une idée de merde. C'est bien une idée qui a été inventée par Sony.
Ouais. Disons que quand c'est pour alterner entre courir et entre sprinter et marcher dans un jeu, dans un FPS par exemple, je trouve pas ça forcément fondamentalement gênant. Mais il y a plein d'autres cas où je trouve ça un peu con. Surtout que moi j'ai une certaine tendance à cliquer sur les sticks alors que je ne veux pas forcément le faire. Parce que je suis un... Un gripper, je sais pas comment on dit, mais j'appuie beaucoup sur les sticks en fait. Sans le faire exprès. Sans forcément le faire exprès.
Quand c'est parce que tu t'ennuies quand tu joues.
Possible.
Tu t'occupes la main.
Quand il y a une action extrêmement importante qui se fait sur un clic de stick, je sais que ça me casse les couilles. Mais voilà. Bref. On a déjà dit que la musique était malheureusement pas top.
Elle est pas marquante.
Je trouve que l'ambiance sonore est pire que tout, c'est-à-dire le basson ou la trompette merdique là quand tu récupères un objet, moi ça m'a défoncé.
Oh non, les jingles, j'étais super déçu. Oh là là, c'était la déception les jingles. Hein.
Ouais, il y a plein de trucs musicalement qui sont déceptions.
La trompette du doute.
C'est ça, la trompette du doute, c'est exactement ça, putain. Donc voilà, c'est pas fou. Je voudrais qu'on finisse cette partie no spoil avec deux petites choses.
Alors, moi, ça se dit sur les musiques, autant je les trouve pas marquantes. Autant elles mettent bien l'ambiance quand même. Moi je trouve que c'était prenant. Ah, voilà. Il y a beaucoup de fois que j'ai joué sans le son aussi, mais.
Je trouve pas ça ouf, moi, honnêtement. Voilà. Mais je.
Je voulais juste dire, je suis content de retrouver une Samus rapide, nerveuse, et d'avoir cette espèce de tolérance sur quand t'as un saut qui est limite. Bon bah hop, à la fusion, elle accroche la corniche et...
Exactement.
Ouais, ça pour moi, c'est la grande qualité des deux sur GBA, qu'on n'avait pas du tout dans les opus 3D.
Qui était un peu plus rigide, oui.
Qui était un peu plus rigide, bah en même temps c'était en 3D, en vue FPS, donc tu pouvais pas aller aussi vite. Mais fusion et zéro mission, en termes de maniabilité et de temps de réponse, c'est vraiment une des plus agréables à jouer. Enfin, moi, ça fait partie des petits défauts que je trouve à Super Metroid quand il joue maintenant, c'est que elle est pas aussi, flexible, Samus, dans Super Metroid. Ça reste très agréable, ça reste très très sympa à jouer, mais quand t'as commencé sur GBA, t'es un peu genre.
Super Metroid reste un jeu qui est, enfin, étonnamment moderne, j'ai envie de te dire, parce qu'il a, il a vraiment pas pris une ride, sauf pour ça où je suis d'accord, c'est un poil rigide.
Bah ça, et le wall jump.
Bah c'est ça, vraiment wall jump c'est le meilleur exemple.
Wall jump c'est ça, oui, c'est vrai qu'effectivement c'est un peu limite. Bref, je voulais parler un petit peu de la carte et de la difficulté. Je sais pas ce que vous avez pensé de la carte. Je trouve qu'elle est pas trop mal foutue. Elle est très connectée.
Elle est très bien, ouais.
Elle est extrêmement connectée puisque en plus des ascenseurs et des métros. Je sais pas comment on peut appeler ça autrement. On a quand même pas mal de téléporteurs, dont des téléporteurs un peu planqués que tu te poses la question de comment est-ce que je vais l'atteindre celui-là et comment je vais faire. Donc t'as vraiment une carte très interconnectée de manière assez naturelle, je dirais. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a pas de, enfin voilà, je trouve que la carte est vraiment bonne. Les noms des zones sont à chier. Il y a tout un tas de trucs qu'on peut ne pas apprécier dedans. Mais là la carte est hyper logique, elle est super facile à parcourir, très bien.
C'est ça, elle est très bien, elle est très lisible, donc c'est façon GBA où en fait tu vois les zones que tu as explorées, celles que tu n'as pas encore faites. Du coup, voilà, le petit kiff, c'est de colorier une salle, en passant dans chaque petit pixel pour qu'elle apparaisse complètement explorée sur ta map. Ce que j'aime beaucoup, et en même temps ça pourrait être un défaut, c'est que tu vois clairement, ok, telle porte, je n'ai pas pu la passer parce qu'il me manquait tel pouvoir. Du coup, quand tu es un petit peu plus loin, tu récupères l'item qui va bien, le premier réflexe, ça va être d'aller ouvrir la carte pour voir où c'est que tu n'es pas passé, quoi.
Bah, c'était un peu pareil dans les autres Metroid, malgré tout. Simplement, les autres Metroid, on te forçait à te souvenir de « Ah bah tiens, oui, j'avais vu une porte violette à tel endroit. » Alors que là, on te l'indique clairement.
Ouais.
Maintenant, je rappelle que dans Metroid Prime, on t'indiquait aussi clairement, toutes les portes étaient colorées d'une certaine manière, et donc il n'y avait pas de secret. Hein.
Il y a aussi, alors moi sur la carte, je la trouve un peu fouillie par moment. C'est pas toujours évident avec toutes les icônes.
Il manquerait des filtres peut-être.
Oui. Voilà, ça où j'aurais aimé avoir des filtres pour juste faire apparaître les informations qui m'intéressaient. Alors, il y a moyen de mettre une icône en surbrillance, ce qui est pas mal.
Il y a 4 ou 5 marqueurs, c'est ça ?
Ça, en fait, quand tu vas par exemple sur une icône de missile, de réserve de missile, si tu appuies sur Y, il va t'afficher toutes les icônes des réserves de missiles que tu as eues ou que tu n'as pas eues.
D'accord, mais pas fait gaffe, ok.
Et
d'accord.
Ça a été très utile, moi, pour le 100%, parce qu'en fait, ce qui fait très bien, c'est que les icônes que tu as eues, elles vont avoir une espèce de petite accolade grise autour de l'icône, alors que celles qui t'as pas encore eues, elles sont jaunes. Donc tu repères très facilement ce qui te manque, ça c'est cool. Parce qu'autrement, tu peux pas vraiment faire la différence avant de passer l'icône dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et un petit fil d'effort aurait été pas mal. Moi, c'est un peu le reproche que je lui fais. Peut-être des icônes aussi plus reconnaissables, parce que le nombre de fois où j'ai confondu les téléporteurs et les recherches d'énergie...
C'est vrai.
Oui.
Après, tu vois, pour moi, le meilleur exemple du fait que c'est une bonne carte, c'est que dans la vraie vie, j'ai un sens de l'orientation de merde. Super Metroid, ça a été une galère pour moi, parce que quand le jeu attendait que je parte à droite, tu pouvais être sûr que je partais à gauche. Et là, avec cette carte, peut-être aussi l'expérience, bah peut-être qu'on parlera de la semi-linéarité qui est peut-être un petit peu plus poussée que dans les précédents, mais j'ai toujours eu le réflexe ou l'impression de me dire « Ok, si le jeu me met dans telle salle, c'est que ce que je dois faire ne doit pas être si loin ou à peu près dans cette direction. »
C'est vrai que le jeu, je trouve, fait ça très très bien tout au long de l'aventure, c'est-à-dire que tu... T'as, comme d'habitude, dans les... C'est une habitude qui était dans Fusion, où t'as vraiment des salles de sauvegarde très régulières. C'est-à-dire que tu passes rarement plus de 10 minutes sans une salle de sauvegarde.
Mm-hmm.
Et ça, c'est bien. Toutes les salles sont devenues des salles de sauvegarde. C'est-à-dire que les salles des cartes sont des salles de sauvegarde, les salles de communication sont des salles de sauvegarde, les salles de sauvegarde sont des salles de sauvegarde.
Ouais.
Ça, c'est bien aussi, parce qu'en fait, ça, pour un jeu portable, ça, c'est toujours beaucoup plus simple.
T'as des petits checkpoints réguliers.
T'as des checkpoints super généreux, notamment sur les émis, ils ont vraiment pas fait les connards.
Sur les émis et les boss, ouais, ils sont cool.
Et c'est vraiment plutôt cool. Et ça, franchement, c'est pas plus mal parce que...
Oui, quand tu cherches à comprendre le pattern d'un boss, c'est ça, bien de recommencer juste
de recommencer
devant.
Tout de suite, pas d'être obligé de te retaper toute
coucou
une séquence.
Coucou Dark Souls.
Coucou Hollow Knight.
Putain aussi, ouais.
Hollow Knight, je suis désolé, il y a des trucs sur lesquels j'ai... Enfin, le jeu, il est pas mauvais, hein, mais il y a vraiment des trucs sur lesquels j'ai du mal quand je vois le... D'un côté, le jeu te prend pas du tout par la main en termes de difficulté. On en parlera probablement dans la partie spoil un tout petit peu après. Mais le jeu te prend pas du tout par la main en termes de difficulté. Mais néanmoins, tu te sens naturellement guidé par le décor où tu te dis, de toute façon, la salle de sauvegarde, je suis arrivé par là, je peux ouvrir la pièce suivante, donc je continue par là finalement. Ça, c'est très naturel.
C'est ça. Attention, il y a rien qui empêche de faire du backtracking complètement gratuit.
Alors,
d'aller
si,
explorer.
Il y a beaucoup de choses qui empêchent de faire.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Il y a des trucs.
Il y a des trucs.
Mais voilà, tu es globalement, inconsciemment, avec des gros guillemets, guidé.
Ouais, en fait, t'es très très orienté pour continuer tout droit, pour aller plus loin, parce que très souvent, tu vas, pour pouvoir avancer, tu vas devoir casser des blocs ou activer des interrupteurs qui vont t'empêcher de revenir en arrière, d'une façon ou d'une autre.
Ouais. Et d'ailleurs, ils ont gardé le truc très malin de... Pour moi, c'était marqué sur Super Metroid où quand tu récupères un item, généralement, t'es dans une salle qui va servir de tutoriel pour cet item.
Ouais, ça, c'est super intéressant et super important parce que... Non, tu vas devoir l'utiliser plus tard, donc c'est bien de savoir s'en servir direct.
Ouais.
Ça faisait partie des énormes défauts d'Axiom Verge, par exemple, qui est pas un mauvais jeu, mais qui avait une certaine tendance à ça. On te file une arme, et puis juste derrière il y a un boss, et puis en fait le boss, bah t'es pas obligé de le battre avec l'arme qu'on t'a filée. Donc du coup l'arme, tu sais pas à quoi elle va servir.
Ok.
Et c'était souvent ça, et je trouve ça très rageant. Alors que là, effectivement, rien que pour sortir de la salle où t'as récupéré l'item, généralement t'as un machin qui t'oblige à l'utiliser. Et ensuite, la suite du scénar, c'est-à-dire le truc un peu fléché où tu dois aller, il faut aussi utiliser l'item. Donc tu sais que tu vas avoir une porte que tu pouvais pas ouvrir, un machin que tu pouvais pas grappiner. Voilà, t'as toujours un truc juste derrière qui fait que tu vas savoir la direction générale dans laquelle il faut aller, et ensuite te laisser gentiment guider par le décor.
C'est ce que faisait globalement tout le début de Super Metroid, où jusqu'à ce que tu obtiennes les bombes de puissance et que tu reviennes à ton vaisseau, globalement...
Et là où il te disait « amuse-toi ».
Voilà, globalement, avant, tu ne peux pas revenir en arrière. Il s'arrange toujours pour que tu sois bloqué à un moment et que tu aies des choix assez limités. Et c'est juste quand tu commenceras à bien connaître le fonctionnement du jeu qu'ils te laisseront faire. Et quand ça arrive là, ouais, effectivement, tu te paumes.
Oui, ça, c'est vrai.
Mais par contre, c'est un truc qui n'arrive pas dans Dread. Hein.
Alors, justement, dans Dread, on va parler un petit peu de la difficulté. Alors, le bestiaire est malheureusement, je trouve, assez quelconque. Enfin,
je trouve que c'est assez varié, avec plein de situations différentes justement sur les ennemis de base.
C'est ça, et pour moi en fait, quand tu dis tiens, tel ennemi, je l'ai déjà rencontré, je vais le niquer comme ça, tu as une chance sur deux qu'il ait changé de pattern parce que t'es un peu plus loin.
Je sais pas, je trouve que les ennemis génériques, je les trouve pas ouf. Voilà, c'est tout, je les trouve juste pas ouf.
Ouais, je trouve qu'ils collent bien au design de la série 2D. Pour le coup, c'était je dirais pas que c'est inspiré et que c'est marquant, mais il y a des idées, il y en a qui sont clairement faits pour que tu utilises le contre, il y en a qui font mieux que tu lui tapes à distance.
Oui, je suis en train de penser à un ennemi particulier où, quand j'ai compris qu'il fallait absolument le flinguer avec le contre sous peine de s'en prendre plein la gueule, j'étais content.
Ouais, ça reste quand même des ennemis qui sont là pour te ralentir, entre guillemets. Que tu peux ignorer, hein. C'est la fin du jeu sur lequel tu vas rouler. Mais je les trouve plutôt bien faits et ils sont assez marquants et uniques d'un ennemi à l'autre. Alors t'as toujours les variantes de la bestiole violente qui va te charger dessus, ça reste énervant du début à la fin. Hein.
Oui, ben, de toute façon, tu l'as toujours.
Tu l'auras toujours, mais je trouve que c'est assez varié. C'est plus en fait en termes de mini-boss où malheureusement ils vont recycler souvent les 3-4 mêmes.
Oui.
Mais alors justement, les boss et les mini-boss, parce que finalement il y a beaucoup plus de mini-boss que de boss.
Oui.
Parce qu'au global, on va rencontrer. Alors, on est en zone spoil, hein, donc on va tout se permettre. Hein, je précise quand même pour les gens qui nous écoutent.
On va peut-être pas
quand même.
Spoil la fin, parce que tout le monde l'a pas fini.
Et c'est quand même dommage de spoil la fin, parce qu'elle est vraiment, mais alors vraiment exceptionnelle.
Ouais, je la trouve un peu rushée, mais il y a des bonnes surprises.
Il y a des très bonnes surprises. Ça te met quand même une grosse banane quand t'arrives à la fin. Hein. Bref. Donc, il y a quand même. Les ennemis ne sont donc pas les pires ennemis du jeu, contrairement à ce qu'on avait pu croire au départ.
Non, c'est clair, c'est clair. C'est des menaces que tu arrives à doser, en fait.
Bah, en fait, une fois que tu as le truc qui te rend invisible, ça te simplifie quand même drôlement la vie.
Ouais.
Donc,
ouais.
Ça fait partie des tout premiers pouvoirs qu'on récupère, ou je crois qu'on le récupère assez rapidement au début du jeu. Et c'était même dans les trailers de base.
Voilà. Deuxième unité centrale.
Oh putain, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a surpris, ça. On est d'accord que par tradition, la Morph Ball arrive assez rapidement.
Ouais, ouais,
là, elle arrive.
Elle arrive vraiment tard, oui. On te donne la glissade.
Oui, oui.
Tout de suite, mais pas la Morph Ball tout de suite.
Ah ouais, non, mais c'est frustrant parce que tu vois le truc, tu peux la Morph Ball et tu fais, pourquoi je l'ai pas? Je crois que t'as la Varia Suit avant d'avoir la Morph Ball.
Mais oui, non, mais c'est ça, c'est assez
ouf. Peut-être pas quand même. Mais
ouais, la Morph Ball, généralement, c'est le premier objet que tu trouves.
C'est ça, un des premiers en tout cas. C'est à peu près toujours comme ça.
Selon
la tradition ancestrale. Bref, donc la Morph Ball arrive relativement tard, mais tu as assez vite l'invisibilité, alors qui te ralentit énormément, qui fait que tu es très incapacité, mais qui fait que tu peux échapper très facilement aux ennemis.
Enfin, c'est clairement la capacité qui a été mise pour permettre de gérer les ennemis, et il y a 5 portes dans le jeu qui vont l'utiliser après, quoi.
Voilà.
C'est vrai.
Alors, après, ça fonctionne. Sur le fond, ça fonctionne, ça marche plutôt bien. Des fois, j'oubliais que je l'avais, parce qu'au bout d'un moment, quand tu commences les derniers ennemis, en fait, tu t'en sers quasiment plus, parce que tu commences à beaucoup mieux bouger dès que t'as le double saut et les trucs comme ça. Bon, dès que t'as le space jump, pardon. Et la screw attack, honnêtement, bon, les ennemis, tu roules un peu dessus. Enfin, t'as plus vraiment besoin de leur échapper en mode discret, mais par contre, au départ, c'est très utile. Voilà, mais c'est pas l'ennemi le plus chiant du jeu. En fait, les ennemis les plus chiants du jeu, c'est quand les Chozo commencent à débarquer, notamment les guerriers Chozo. Et alors, eux, ils sont chauds patates, quoi.
Ah, le premier, il est.
Il est chaud les marrons. Hein.
Il est chaud. En fait, ça devient plus simple quand tu as un des objets qui te permet de balancer plusieurs missiles en même temps.
Oui.
Et qui, lui, par contre, tu peux l'utiliser sur les ennemis et laisser cibler plusieurs fois. Donc, quand tu balances 9 missiles à la gueule à chaque fois, il tient beaucoup moins de temps.
Et tu vois, moi, je dirais que ça les fait durer moins longtemps, mais qu'ils restent tolérants à l'erreur.
Bah, disons que tu as alors un des items que tu récupères assez rapidement, qui est la phase, qui te permet d'aller faire un dash, en fait, un dash où t'es invincible.
Bah, qui devient quasiment vital contre les boss à partir du moment où tu l'as. Hein.
En tout cas, contre les Chozo, c'est clair que ça devient vite vital. Entre les autres boss, pas forcément.
Oui, parce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas des ennemis, des gros boss comme on a l'habitude de voir en Super Metroid, tu vois, c'est pas un Kred, c'est pas un Ridley. C'est des boss qui font la taille de Samus et qui, du coup, ont sa mobilité.
Oui.
Qui ont des projectiles qui sont très précis, qui ont des attaques au corps à corps qui font très mal. Et du coup, t'as besoin de ce dash pour t'en sortir.
Ah, clairement, si tu l'as pas, t'es vraiment dans la merde. Enfin, le dash, il est. Au bout d'un moment, on est d'accord que pour battre quasiment tous les Chozo, en fait, tu finis par faire systématiquement, quand ils commencent à charger, saut, dash, l'envoyer dans la gueule. Enfin,
on est d'accord.
Et tu vois, commences à avoir des enchaînements et des patterns qui te reviennent en tête qui sont extrêmement stéréotypés.
Oui, mais tu vois que le jeu va te proposer un contre, je dis, va te faire foutre le jeu, je fais le tour. Hein.
C'est là aussi où tu vois qu'en fait, tu progresses vraiment. Samus, en tant que personnage, progresse vraiment parce que ses ennemis, tu les affrontes plusieurs fois. Mais plus tu vas les voir et plus tu vas les tuer vite. Et plus tu vas être habitué à les affronter.
Et effectivement, il y a un moment où on t'en balance deux sur la gueule, mais il se trouve que t'as le rayon qui passe à travers les murs.
Oui, c'est celui-là que j'appelais le mini-boss Smash Bros.
Le plasma beam et le wave beam.
Le plasma beam, et en fait, tu te rends compte qu'une fois que t'as ce genre de rayon-là, si t'arrives à aligner les deux, tu vas les défoncer très 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 vite.
J'ai même pas pensé à tirer à travers la plateforme. Oh, quel con.
Alors, t'as deux trucs comme ça, parce qu'il y a aussi un des pouvoirs, moi, qui m'a un petit peu étonné. Donc, on retrouve les grands classiques de Metroid. Hein. On a donc le phaser le piou-piou de base, la bombe, les missiles, tout ça on a l'habitude. On a les multimissiles qui étaient dans Metroid Prime 2. Je crois les premiers où tu peux cibler 5 cibles en même temps et tirer.
C'est ça.
Tu as le super missile, grand classique aussi.
Ah, qui est une upgrade du missile.
Voilà. Mais qui, alors le upgrade automatique, hein, toujours pareil, t'as pas à choisir quoi que ce soit, une fois que c'est upgradé. Le tir triple, je me souviens plus. Tu sais, le tir large.
C'est le phaser, justement, dans Super Metroid.
C'est fusion ou c'est le. C'est Super Metroid, t'avais déjà ça ?
Super Metroid, il y a.
D'accord.
Mais ça, un truc optionnel.
T'as le rayon de charge. C'est ça, c'était assez rigolo parce que surtout le rayon de charge pour ouvrir certaines portes. Je trouvais ça assez marrant, moi.
Oui, et surtout quand t'as un ennemi au cul.
Oui. Oui, parce que forcément, tu l'anticipes pas toujours.
Alors, moi, ce que j'aimais bien dans l'explication du rayon de charge, c'est qu'il t'expliquait une astuce que. Qui est assez connu de joueurs un peu habitués de Metroid, où tu fais rayon de charge et tu sautes en faisant la vrille, ça te fait comme si t'avais un bouclier autour de toi. Mais ça, il te l'explique, alors qu'en fait, dans aucun autre Metroid, ils l'ont expliqué jusqu'à présent. Hein. Tu le découvrais par toi-même au bout d'un moment, mais là,
tu finis par le découvrir. Tu as quoi ? Donc, tu as effectivement le Wave Beam, le Plasma Beam. Donc, le Wave Beam étant. Enfin, te permet de passer au travers des ennemis, le Plasma Beam te permet de passer au travers de tout.
Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que. Alors, autant en 2D, je trouve que ça marche assez bien, autant en 3D, je trouve que l'effet est très bizarre.
Ouais. Bah, je m'étais demandé s'ils allaient mettre le Wave Beam. Parce qu'en 3D, ça allait être un peu étrange.
Mais c'est étrange.
Mais d'ailleurs, il y a une espèce de rayon intermédiaire un peu nul, où quand tu le charges, il fait des explosions qui peuvent toucher les trucs
alors
à travers les murs.
Ça fait partie des trucs. Alors, tu figures-toi que.
J'étais là, genre, mais quelle utilité ?
Alors, c'est juste une énigme parce que tu t'en sers deux, trois fois, t'as des shortcuts. Mais figure-toi que pour niquer certains choseaux, bah, c'est vachement utile.
Oui.
Bah oui, puisque en fait, tu charges. Le chozo, il est au-dessus de toi, il a une IA qui fait qu'il n'a pas forcément le réflexe de venir descendre quand il est au-dessus de toi dans certaines positions, il ne va pas trop bouger. Et en fait, il fait très mal ce rayon. Mais très 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 mal.
Ok.
Voilà, donc vous voyez, vous avez appris un truc. Il n'est pas si inutile que ça, mais simplement, je pense que personne n'y pense.
Trop, je t'avoue qu'à partir du moment où j'avais le multimissile, j'utilisais que ça contre
les bassins. Alors moi, j'avais tendance à bourrer Y. Ça marche bien aussi.
Ça marche bien aussi, ouais. Dans les classiques, on a aussi l'accélérateur, le speed booster, aussi nommé la légende du speedrun, parce que s'il y a bien un truc dans Metroid qui est à l'origine de tous les speedruns, c'est ça.
Oui,
c'est ça le wall jump, hein.
Bah, en fait, il est. Et puis alors là, pour arriver à faire le 100%, je.
Ah oui, oui, bah ça. Les puzzles de Shine Spark, comme on les appelle, où faut faire ta course, faire le bas pour garder la charge. Te déplacer jusqu'à un endroit précis et la relancer pour repartir, avec parfois en prenant des pentes pour pouvoir relancer la course derrière et aller plus loin.
Et parfois en boule morphing.
Et parfois en boule.
Enfin, et moi, parfois faut placer des bombes pour s'ouvrir le chemin, donc il y a des timings, ça peut être un peu serré.
C'est pas un peu serré, il y en a qui sont. Enfin, je sais pas. J'avais vu un mec sur Twitter qui disait celui qui a designé ça, je te hais.
Ouais, bah c'est exactement ça. Celui-là est particulièrement gratiné parce que le timing il est serré. Hein.
Ah, mais de toute façon, déjà le timing quand tu buffer ton accélération quand tu la gardes, t'as pas grand chose, hein. t'as genre 4-5 secondes max, je crois, pour arriver à la.
Je crois que c'est une des plus rapides hein, de mémoire. Enfin, d'habitude, je crois que c'était plus long. Quand à l'époque, sur GBA, où c'était pas, fallait pas appuyer sur le bouton.
Voilà. Là, c'est quand même assez violent.
Et c'est assez poussé parce que maintenant, je crois que tu peux rebondir sur les murs en conservant la course. Donc, ce qui fait que tu peux faire demi-tour.
Tu peux faire plein de trucs.
Ce
hein.
que tu pouvais pas faire avant, et il y a des trucs qui l'exploitent à balles.
Moi j'ai vu un truc où j'ai vu un truc où en fait le moyen le plus simple de déclencher le truc c'était de sauter puis d'enchaîner genre YB 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 puis à un moment tu vois que le truc part tu mets une direction. Et je me suis dit putain mais vous êtes fous, mais merde il est fou.
ça reste moi mes pouvoirs préférés des Metroid 2D. Alors je pense qu'en 3D il est absolument infaisable, mais en 2D il est.
Alors
c'est agréable.
3D...
Parce que tu les défonces sur le trajet.
Je sais pas, parce que je me rappelle Maître D sur Metroid Prime, il n'y a pas la screw attack parce que ce serait trop compliqué à faire. Ils n'ont pas réussi à le faire sur le 2.
Ils l'ont mis dans le 2.
Mais
dans le 2, t'as la screw attack.
Diriger.
Mais ouais, c'est ça, puis c'est uniquement à certains endroits.
Voilà. Tu peux te lancer sur un pad spécial et tu peux pas te diriger.
Ils ont mis l'accélérateur dans Over-M.
C'est 2D Over-M, c'est un peu de la 2D
quand
même.
Ouais, c'est quand même plus 2D aux
heures. C'est un peu plus. Bah, ça reste un jeu en 3D, hein, on se déplace dans la profondeur.
Ouais,
mais pour le coup, il n'a pas encore ce côté game break. Enfin, pas game breaker, mais.
Si.
Dans Overwatch, je trouve qu'il n'était pas aussi exploitable que dans Super Metroid ou Dread.
Bah, là, dans Dread, une fois que t'as la screw attack, clairement, enfin, comme d'habitude,
là,
tu roules sur le jeu.
Je parlais du speed booster, pas la screw
ouais,
attack.
Ouais, mais même l'accélérateur, tu.
Bah dans Overwatch, je trouvais pas aussi bon que sur les épisodes 2D.
Non, c'est peut-être une qualité d'Overwatch.
Peut-être. Mais pour le coup, non, j'ai commencé à regarder les mecs qui font du séquence break, donc c'est-à-dire qu'ils obtiennent des objets dans le désordre. C'est des bonnes stratégies d'abus. Hein,
Il y a des trucs sympathiques. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même certains boss où c'est prévu de pouvoir casser
oui.
le jeu.
Ouais, c'est génial ça.
Je trouve ça assez ouf.
T'imagines les mecs en QA qui font putain, les gens, j'ai réussi à baiser la séquence. Bon, on va faire une cinématique spéciale.
C'est ça.
Ah ouais, c'est ça, mais vraiment, c'est pour. Hein. Tu défonces le boss quand tu fais ça. Hein.
Et puis, tu le défonces vraiment, quoi. Tu le défonces super vite. Hein.
Je pense que les speedruns de Metroid Dread vont être très très chouettes à regarder.
Alors pour l'instant, le record du monde est à 1h30.
Ce qui est pas mal, hein.
C'est pas mal, mais sans gros abus d'ailleurs, hein, pour l'instant.
Alors,
c'est...
apparemment, tu peux pas faire trop de out of bound, parce que si jamais, alors ça a été trouvé, je crois, il y a pas mal, dans les deux dernières semaines, hein, si jamais Samus est hors du terrain, enfin, le jeu check régulièrement si Samus est dans une zone où elle devrait être, et si elle est hors du terrain, ta vie tombe à zéro.
Ah putain, donc les mecs ont trouvé un moyen de baiser, ils trouveront autre chose.
Ils trouveront autre chose. Mais si on peut éviter effectivement de faire du speedrun à base de je passe à travers tous les murs, ce sera pas mal parce que je trouve que ça fait partie du speedrun pas très intéressant à regarder.
Hein. Ça dépend, tu regardes Metroid Prime, c'est beaucoup de trucs comme ça et en fait c'est super intéressant à regarder parce que en réalité, déjà le décor continue d'être plus ou moins chargé, c'est pas si évident de sortir, c'est pas si évident de rentrer.
Ouais, Prime, je l'avais regardé, ça marchait bien. Mais on m'avait dit que Samus Return c'était genre. Le début c'était normal et puis après il traversait un mur et il était à la fin du jeu.
Ouais bah ça. Bah de toute façon la fin du jeu dans Samus Return est juste à côté du début hein, donc c'est pas très étonnant.
C'est pas faux.
Là c'est un peu moins vrai. Là de toute façon tu démarres vraiment tout en bas de la carte et faut aller remonter jusqu'en haut, voire très 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 en haut. On va pas spoiler pour.
Ce qui donne une bonne ambiance d'ailleurs. Ce qui donne. Si mais je l'ai vu en fait la zone finale. Mais ça donne une bonne ambiance.
C'est-à-dire tu
le fait que tu commences tout en bas, la première communication que tu as, c'est bon, bah, ton chip il est à la surface, il faut que tu remontes.
C'est ça. Et en fait, c'est le seul objectif qu'on te donne dans le jeu finalement.
Contrairement au départ, à Fusion, on au te départ, donne après voilà. L'évolution, t'as un petit scénario qui va se mettre en place avec une séquence sympa d'ailleurs, où il se passe quelque chose qui m'a surpris. Je vais pas le dire parce que Zergy l'a pas encore vu, mais j'étais content.
Bah, en même temps, le scénar, il est quand même plutôt sympa. C'est-à-dire que tu te rends compte de tout un tas de choses. Tu te rends compte qu'Adam, tu te dis, il va peut-être essayer de me niquer. Tu te dis, à un moment, il va
sûrement me niquer. C'est quoi cette voix de merde qu'ils ont mis d'ailleurs à Adam ?
Alors, ouais. La voix québécoise est géniale, hein, je précise.
Ah, c'est dispo sur la cartouche ?
Alors non, c'est pas dispo sur la cartouche, faut tricher un peu.
Ah, va falloir la regarder sur YouTube.
Voilà, en gros, faut aller regarder sur YouTube. Mais la voix québécoise est assez énorme.
Tabernacle, Samus, dépêche-toi.
Jeune femme, dépêchez-vous, bordel.
Tu vois, oui, ça, pour moi, ça rajoute le côté où, à la Alien, où tu fais pas confiance à l'androïde.
Exactement, exactement. Et je trouve qu'il y a ce côté-là. À un moment, tu te dis, ok, il est là pour t'aider et tout. Puis à un moment, tu te dis, c'est quand même chelou ce qu'il est en train de te demander. Je dis pas qu'il est pas en train de t'aider, je dis juste que. Tu te dis, il y a une arrière-pensée derrière, il y a un truc, c'est, on me fait quand même faire un détour pour récupérer un truc qui n'est pas vital pour la mission. Et en fait, à la fin, tu vas te faire douiller par l'ordinateur, mais tu t'en doutes assez tôt en fait que tu vas te faire douiller par l'ordinateur. Mais qui se cache derrière l'ordinateur, ça...
Alors d'ailleurs, tu peux savoir, parce que quand je joue à Metroid Fusion, faire attention à ce que, comment... L'ordinateur parle à Samus et en fait assez rapidement
il
on
change.
Se rend compte qu'il y a une différence.
Oui, oui, oui.
Alors attends.
Je l'avais pas noté et quand on me l'a dit, j'ai fait mais oui, c'était évident.
Mais en fait, j'ai vu l'intro, je me dis ah, c'est cool, ils ont gardé ça et juste après mais attends, mais pourquoi ils filent pas le clin d'œil, c'est dommage.
Bah, c'est ça.
D'ailleurs, est-ce que tu as le petit message secret si tu arrives à faire c'est dans Fusion si tu arrives à faire un truc un dash bien placé qui te permettait d'aller là où tu devais pas aller, t'avais un message secret.
Ça n'a pas encore été trouvé. Après, Fusion, il a été trouvé très très tard. Hein. J'avais essayé de me renseigner. Fusion, je crois que ça date de 2015, un truc comme ça. Pour un jeu de 2001.
Oh. Ah oui, quand même.
2001-2002. Donc ça a eu beaucoup de temps à trouver parce que bon, quand tu regardes la façon de passer le truc, c'est pas évident. Hein. Alors c'est peut-être plus vieux que 2015, mais ça a pas été trouvé. Enfin, ça a commencé à être connu. Vraiment, Internet a explosé et qu'il y a eu des vidéos sur YouTube. Mais du coup, c'était un truc connu plus vers 2012-2013 au minimum, quoi.
Tiens, sinon, niveau ambiance et gameplay, parce que j'adore, je trouve le mix parfait entre Super Metroid et Fusion.
Ah, donc Fusion pour le côté dirigiste.
Fusion était
pas
très dirigiste.
Fusion est très dirigiste.
Voilà, Fusion est très dirigiste. Celui-là, il t'incite, mais il n'y a rien qui t'empêche de te planter de direction. Il y a plusieurs fois, je me suis dit, tiens, je vais aller par là. Puis je me suis dit, attends, mais connard, si on m'a mis dans telle pièce, c'est qu'il devait y avoir une raison. Ça ne doit pas être super loin. J'ouvre la carte. Ah oui, ok, effectivement, tel pouvoir me permet d'aller maintenant à tel endroit.
Fusion, c'était tellement agressif, la linéarité qui te bloquait les portes.
Ah, le pire, je crois que c'était zéro mission, où il te disait l'objectif est là. Quoi.
Ouais, ça c'était pas fou. Après, t'étais un peu libre d'y aller comme tu voulais. Mais bon, le chemin était
mais,
un peu...
Zéro mission, c'est quand même un remake du premier Metroid, où honnêtement, le premier Metroid sur NES, sans carte, sans indication, c'était un peu raide.
C'est vrai que voilà, en attendant... que mon jeu arrive, parce que j'ai reçu le truc une semaine après vous, manque de bâtard.
Oui, mais tu l'as presque fini en un jour et demi, alors nous fais pas chier. Voilà.
Je me suis dit, je vais relancer Super Metroid et puis le tout premier. Le premier, c'est vraiment raide. Hein. Tu commences, c'est ouvert et démerde-toi.
C'est ça. Ah, les secrets dans les murs avec aucun indice.
Ouais, non, ça c'est abusé.
En fait, le premier Metroid, je l'avais déjà dit à l'époque où on avait parlé de Metroid de Samus Returns, le premier Metroid sur NES, c'est faisable. Quand t'as une carte à côté,
c'est ça, parce que là j'avais la flemme de me la dessiner, mais je me suis dit, ok, à l'époque, parce que je l'ai pas fait à l'époque, hein, le premier Metroid, c'est parce que ça me faisait peur d'ailleurs.
Oui, bah c'est pas un jeu très. Enfin, oui, c'est impressionnant.
C'est angoissant, hein.
C'est un jeu angoissant, oui, effectivement, c'est un huis clos.
Mais là, voilà, en le refaisant à adulte, je me suis dit, oui, il faut dessiner une carte ou avoir une soluce à côté. Quoi. Enfin,
une carte à côté.
Une carte.
Juste une carte à côté, ça suffit largement. Et en fait, avec une carte à côté, le jeu, il se finit bah, comme Zéro Mission. En fait, il se finit en... Zéro Mission, quand tu le connais un peu, il se finit en 2-3 heures. Quoi. Ça va très très vite à finir, en fait. Même en étant guidé. Bref. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Un dernier petit mot.
Très rapide sur le scénario parce que on a beaucoup parlé des guerriers Chozo, mais c'est vraiment la première fois où dans Metroid les Chozo sont prennent une part d'active au scénario du jeu et on apprend pas mal de choses aussi sur comment ils fonctionnent. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu au lore de Metroid, bah c'est aussi un bon épisode là-dessus de voir un peu une facette qui est d'un peuple qui restait très souvent en arrière-plan, même si toujours présent parce que les Chozo dans l'histoire de Metroid ils ont un peu ils sont un peu toujours là où il y a des merdes, hein, on va pas se mentir.
Mais ils l'ont créé, la merde.
Bah, c'est ça. Et là, du coup, on a pas mal d'explications là-dessus aussi. C'est pas toujours parfait, mais je trouve que c'était intéressant d'avoir des sujets au sein du jeu.
C'est ça, même le simple fait de dire, tiens, il y a plusieurs tribus Chozo, en fait, qui ont des philosophies un peu différentes par rapport à ce qu'on t'avait présenté jusqu'à présent, où le Chozo, c'était un peu Yoda, quoi. C'est les peuples sages qui existaient il y a très longtemps sur une planète lointaine. Là, non, on te présente. Non, il y a une tribu guerrière qu'on a un peu rien à foutre. Il y a la tribu des sages qui, effectivement, était plus modérée. Il y a les mecs qui ont créé les Metroid parce qu'il fallait faire Sifermi. Bah, tu te rends compte que, ouais, il y avait quand même des connards dans le lot.
Bah, c'est ça, je trouve ça intéressant. Et juste aussi pour la façon dont le scénario est fait. On a beaucoup parlé de ce qu'il y avait dedans, mais en fait il y a vraiment une gradation sur la découverte du lieu, parce que vraiment au début je trouve qu'on est vraiment on sait qu'il y a les EMI, on est un peu paumé au milieu de nulle part, on sait pas trop en fait vraiment ce qui se passe, et plus on avance dans le jeu plus on découvre des trucs et les complots, les histoires et compagnie, et ça je trouve ça plutôt chouette dans le sens où ben, justement les éléments que tu découvres ils vont aussi recontextualiser un petit peu les zones où t'es et changer 2-3 trucs. Et ça, c'était plutôt chouette.
Ouais, c'est plutôt. Je trouve que le scénario se tient très bien parce que finalement, il est raconté au travers des décors, beaucoup. Il est raconté au travers des différentes communications que t'as avec Adam, forcément, puisque c'est le seul truc qui parle en fait dans le jeu pour te raconter les trucs. Il est beaucoup raconté dans les cinématiques. De rencontres avec les Chozo, puisque tu vas affronter quelques guerriers Chozo et ça va quand même te raconter une histoire plus ou moins, mais finalement c'est pas un scénario où on t'explique avec une cinématique ce qui est en train de se passer.
Ouais, c'est pas Kingdom Hearts, ça.
Voilà.
Il y en a quand même, hein, des moments où ils font ça.
Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. On te le raconte beaucoup à travers le décor, je trouve. Notamment l'évolution du décor, notamment quand t'arrives dans l'espèce de cité Chozo qui est un petit peu tout au-dessus, où tu vois effectivement cet énorme palais avec des bannières, des statues, des... Voilà, on te donne parfois de temps en temps la petite cinématique pour te mettre un peu l'ambiance, mais globalement, je trouve que c'est plutôt bien raconté. Mmh. Et en plus, c'est intéressant. Et la fin est extrêmement surprenante.
Et alors, du coup, j'aurais une
question de fin qui...
Du coup, j'aurais une question. Alors, essayez de pas trop me spoiler, mais je sais que le jeu, c'est un peu le truc qui m'inquiète. En fait, il a été présenté comme une conclusion d'un arc narratif. Une fois passé la fin, est-ce qu'un Metroid 6 est possible ou pas?
Alors oui.
C'est toujours possible parce que c'est comme dans un comics. Les méchants ne meurent jamais.
Bah, surtout, ça reste très ouvert. Et puis, on l'a vu avec Prime, on peut parler de choses que les Metroid, les Chozo, les
pirates de l'espace. Quoi. Ils ferment pas tout, quoi.
Ils peuvent raconter d'autres trucs, ouais.
Bah, okay. Sachant que dans tous les cas, c'est plus un spoil parce que c'est comme ça depuis Fusion, l'aspect Metroid dans Metroid, ça reste Samus elle-même, donc... Vu qu'elle a de l'ADN de Metroid.
Voilà.
Et pour les ça. Donc, il y a toujours moyen d'exploiter un truc là-dessus. Il y aura un Metroid 6, je pense, qui se passera après.
Je pense, oui. De toute façon, il y aura un Metroid Prime 4 qui va reprendre. Et, puis... et Other M, les événements d'Other M.
Mais d'ailleurs, c'est aussi le truc moi qui m'intéressait pas mal avec Dread, et je suis content que ça en fasse partie du scénario, c'est comment ils exploitent quand même le gros truc de Fusion, qui est que Samus a de l'ADN de Metroid, et est-ce que ça aura un impact un petit peu sur la suite? Qu'est-ce qu'ils vont aller au-delà de ça quand même? Parce que Fusion marque quand même ce qui est censé être la fin d'existence des Metroid et du Parasite X. Et c'est plutôt bien exploité dans Dread.
Je trouve que c'est extrêmement bien exploité. C'est extrêmement bien exploité. On spoilera hors antenne pour Mecton.
Ouais, c'est vous voulez.
Normalement, il l'a déjà vu. Là où il
est. Je pense pas.
Dont on veut parler.
Alors, il a vu une partie, mais il a pas tout vu.
Oui, il a pas tout vu.
Il a pas tout vu. Il y a un moment quand même où ça commence à être... tu te dis, oula, ok, c'est chaud patate. Bref. Allez, on va se quitter là-dessus parce que cette émission a duré beaucoup trop longtemps, comme c'était plus ou moins prévu.
Comme d'habitude.
Voilà, mais là, jouez-y, c'est vraiment bien. Enfin, voilà, je suis extrêmement content. Je pense qu'on était tous un tout petit peu angoissés de voir comment ça allait tourner. Finalement, ça a bien tourné.
Tu parlais de difficultés adaptatives, du coup, je suis pas d'accord.
Ah.
Et pour moi, en fait, c'est toi, skill de joueur, qui arrive entre chaque échec à de mieux en mieux anticiper le boss et du coup à crever de plus en plus tard.
Je suis pas aussi bon que ça.
Moi, je suis d'accord là-dessus aussi. Hein. C'est la Dark Soulisation de Metroid, faut apprendre les patterns.
Bah, je suis désolé, mais sur un Dark Souls, j'en chie des bulles, alors que sur un Metroid, ça va bien. C'est peut-être parce que le personnage se contrôle correctement.
Voilà,
ça c'est possible. Okay.
Bref. Bon, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 2 semaines où normalement nous devrions faire notre rétrospective GameCube, sauf s'il y a un Nintendo Direct surprise ou un truc comme ça, mais j'en doute. La grosse sortie de cet hiver, c'était...
C'est le remake de Fusion. Non, je déconne.
C'est Shin Megami Tensei 5.
Bref.
Je blague.
Donc nous allons faire dans 2 semaines une rétrospective GameCube. Donc on va parler de la console, on va parler des jeux, on va parler...
Et ça va durer 3 heures.
Ça va durer 3 heures. Mais du coup, on fera probablement pas de tour de table de l'actu. On va sûrement faire l'émission en 3 petites parties.
On va faire l'actu de 2001.
On va faire l'actu de 2001. Et pourquoi pas l'actu de.
Novembre 2001.
De bah, novembre
c'est
2001.
C'est la sortie de la GameCube aux US.
C'est la sortie de la GameCube aux US. Voilà. On sera pile entre la sortie japonaise et américaine, si je me rappelle bien.
Normalement, ouais.
Donc on est quand même pas mal. Voilà. En attendant, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao.
À plus.
Bisous.